bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais excuser Didier Moreau qui est au Liban en ce moment pendant une semaine, donc voilà, qui développe des échanges avec ce pays à multiples facettes. Donc cette table ronde est un petit peu originale par rapport aux autres dans le sens où langue, langage et créativité territoire, ça ne va pas forcément de soi, mais justement, on va voir à travers les différents intervenants que ça peut être le cas. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et puis, par ailleurs, on teste un peu quelque chose pour voir si ça peut avoir des perspectives d'avenir. C'est qu'après 17h, vous verrez, il y a des ateliers de langue qu'on vous propose, d'initiation gratuite, trois quarts d'heure, deux fois trois quarts d'heure. Et on verra si ça marche et si ça peut se développer, soit dans ce cadre-là, d'ailleurs, soit dans d'autres cadres. Et donc, voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais appeler tout de suite Madame Françoise Rabhi, qui est donc directrice du laboratoire de recherche L'Erdil à Toulouse et co-organisatrice d'InnovaLang à Toulouse, qui a eu lieu, je crois, en décembre 2015, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc on va commencer par son intervention, ensuite on appellera les personnes suivantes et chacun, tout le monde restera à cette table pour ensuite échanger avec vous. Je voulais juste peut-être, mais elle en parlera mieux que moi, je crois qu'il est question de Fab Lab des langues, entre autres, et les Fab Lab, les tiers-lieux, c'est des choses qui nous intéressent dans créativité territoire. Et d'autre part, InnovaLang était une manifestation assez intéressante, je pense. Mais voilà, je vous laisse et je ne veux surtout pas empiéter sur votre façon de présenter les choses.
Merci pour cette présentation. Je vais chercher une diaporama qui est très court. Voilà. Donc bonjour, merci pour cette invitation. Je ne sais pas si on est là. Voilà. Donc. J'ai plus l'habitude de communiquer en tant que chercheur dans des colloques avec des recherches, des interventions bien précises, de la méthodologie, plein de noms, plein de références. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était une rencontre autour de ces questions de créativité, d'innovation en langue. Donc j'ai essayé de construire quelque chose qui puisse intéresser tout le monde et d'expliquer un petit peu dans quelle direction se situe aujourd'hui, on peut dire, la recherche en direction de ces questions par rapport à la créativité et par rapport à l'innovation en langue étrangère et à l'intérieur de ce paysage, la part que prend mon laboratoire à Toulouse. Donc le voilà. Donc j'y reviendrai pas. Donc nous sommes situés à l'Université fédérale de Toulouse et très exactement à l'IUT. J'allais dire, c'est pas pour rien, nous y reviendrons après. Donc avant de parler de créativité et d'innovation en tant que telle, je pense que c'est absolument fondamental, en une introduction, en une diapositive, de dire un petit peu quel est le paysage en très très gros, hein, très très gros de la recherche dans ce domaine en France, pour comprendre après ce que je vais présenter, ce que nous menons nous comme type de travail, du point de vue de la créativité et de l'innovation. En gros, il y a vraiment deux grands domaines de recherche qui peuvent avoir des recoupements. Je les appelle comme ça, c'est ma dénomination et mon approche des choses, le domaine de l'acquisition et le domaine de l'apprentissage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a des chercheurs, en France ou ailleurs, qui travaillent sur la manière dont les langues se développent chez un individu ou chez un groupe d'individus, qu'il s'agisse de la première langue, qu'on n'appelle pas maternelle, parce qu'elle n'est pas nécessairement maternelle, ou qu'il s'agisse d'une langue étrangère, dans des situations, on va dire la plupart du temps, qui sont des situations dans lesquelles la personne est entourée par la langue qu'elle souhaite apprendre dans des milieux endolingues. Donc toutes ces recherches supposent bien évidemment des modèles cognitifs, un travail de modélisation, puisque on n'a pas le droit d'ouvrir le cerveau des gens, la tête des gens, pour voir ce qui se passe dedans. Puis d'ailleurs, même si on le faisait, on ne comprendrait rien. On ne verrait pas des langues, on verrait des neurones, des réseaux, des choses comme ça. Donc, dans nos domaines, autant que dans d'autres très scientifiques, la modélisation, la théorie, la modélisation sont extrêmement importantes. Et donc, ces recherches, elles tournent autour de questions comme le plurilinguisme, le bilinguisme. Elles ont été portées par la psycholinguistique, les situations d'immersion. D'un autre côté, on a un autre domaine qui est celui qu'on appelle celui de l'apprentissage, mais qui est celui de l'apprentissage institutionnel d'une langue. Qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'université, dans des situations académiques contraintes où les enfants ne sont pas où les adultes ne sont pas entourés par ce qu'on appelait autrefois le... Vous m'entendez, ça va? C'est... Oui. Ce qu'on appelait autrefois le bain de langue. Donc là encore, on a des modèles cognitifs, on a des théories qui sont apparues assez récemment, parce que pendant longtemps, ces modèles et ces théories ont en fait été puisés dans la psycholinguistique, ont été des espèces d'applications de recherches menées sur la langue première, et c'est depuis à peu près, je dirais, 20 ans, 25 ans, qu'un peu partout dans le monde, au Canada, en Hongrie, chez nous, des chercheurs ont cherché à construire des théories, des modèles, des méthodologies bien adaptées à ces situations dites contraintes que nous appelons situations d'enseignement-apprentissage. Et bien évidemment, la question de la créativité et de l'innovation sont au cœur de nos travaux, puisque le LERDIL se situe de ce côté-là, je vais y revenir, et les questions de motivation, puisque j'ai bien parlé de public contraint et d'absence de bain de langue autour. Donc comme il n'y a pas besoin de chercheurs pour entendre dire un peu partout en France que l'enseignement des langues n'est pas très performant, que les élèves n'apprennent pas les langues à l'école, que c'est une catastrophe, qu'à l'université c'est encore pire, voilà, il y a une très forte pression sur nos laboratoires pour qu'enfin nous découvrions la vérité, que la lumière nous vienne et que grâce à nos recherches, on puisse ensuite faire venir la lumière aux professeurs de langue, à travers une médiation qui est celle des dispositifs d'enseignement-apprentissage. Donc, modestement, le LERDIL essaie de concourir à cet effort collectif. Donc, nous sommes dans l'apprentissage institutionnel. C'est un laboratoire interuniversitaire interlangue situé à Toulouse. Donc, ça veut dire les trois universités, des écoles d'ingénieurs, Sciences Po, etc., des chercheurs en langue qui sont dans des disciplines très différentes. Nous sommes situés dans une université scientifique, Paul Sabatier. Je précise pour ceux qui voudraient reprendre contact avec nous après cet exposé, ce que j'espère. Donc nous ne sommes pas à Jean Jaurès, nous ne sommes pas au Mirail, nous sommes bien à Paul Sabatier, ce qui surprend beaucoup de gens, bien qu'étant en langue. Mais comme nous menons des travaux qui nous mettent en relation avec les biologistes, avec les neurosciences, etc., c'est aussi naturel et aussi normal que nous nous trouvions là. Voilà, donc, ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, quels sont les objectifs? Et c'est là où, après cette présentation, je vais présenter le travail de recherche que nous menons aujourd'hui, avec ces objectifs en matière de dispositifs innovants et de dispositifs créatifs, bien sûr. Donc, c'est une introduction. Donc, il s'agit de comprendre ce qui se passe quand on a un public contraint, qui apprend à la fois des savoirs scientifiques ou professionnels, en tout cas spécialisés. Ça peut être aussi des savoirs en danse, ça peut être des savoirs en macramé, ça peut être des savoirs en cuisine. C'est un savoir spécialisé, c'est un vocabulaire, c'est un domaine spécialisé. Donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait dans cette situation de travail dans laquelle l'étudiant ou l'élève, en tout cas l'apprenant, apprend à la fois une spécialisation, donc des compétences en action, avec une langue étrangère, en relation avec sa langue première. Ce sont des choses qui n'ont pas posé problème pendant longtemps à l'université, pour lesquelles on a jugé qu'il n'y avait absolument pas besoin de recherche, qu'il suffisait d'avoir des enseignants qui aient soit le CAPES, soit la GREG, enfin avec un label, vous voyez ce que je veux dire, certifié conforme, quoi. Leur formation en littérature, Moyen-Âge, civilisation, etc. Et puis ça suffisait pour former correctement des étudiants qui apprennent l'espagnol du droit, l'anglais de la biologie ou l'allemand de la médecine. Et les choses ont prouvé depuis longtemps que c'était beaucoup plus complexe que ça. Et là, je me situe vraiment sur le plan cognitif, sur le plan sociologique, etc. Que ce sont des phénomènes très, très complexes et des interactions très complexes. Et si on ne les met pas à jour, si on ne le travaille pas, si les chercheurs ne s'y intéressent pas, on n'arrivera pas à construire des dispositifs d'enseignement-apprentissage qui soient adaptés à ces situations. Donc, alors maintenant, je vais faire une prouesse. Donc, alors, je vais vous montrer un petit film que nous avons réalisé sur le laboratoire. Non pas pour vous présenter le laboratoire, je vais passer, mais parce que ce film me montre clairement les trois dispositifs dont je veux vous parler aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je parle à propos de parler? 10 minutes, oui, donc c'est bien.
In the face of the diversity of the subject taught at university, Laerdal endeavors to identify what unites learning and teaching processes when dealing with these subjects in a foreign language. For instance, what does the teaching learning of English for chemists have in common with the teaching of English lawyers? Or what does the teaching of Spanish for engineers have in common with the teaching of Chinese for doctors? Quite evidently, researchers pinpoint, analyze, and model differences, linguistic, professional, cultural, and didactic differences. And this entails work focusing on the ontology of the field.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui distingue le travail du chercheur? C'est son travail épistémique, épistémologique, certains disent. Épistémique peut suffire aussi. Et dans le cas présent, là, dans ce que je vous ai montré, il s'agit bien d'essayer de définir, donc un axe de notre labo s'inscrit dans la définition, dans la description, dans l'ontologie de cette discipline qui est la langue étrangère et son application et les relations entre les deux. Et surtout, ce qui rend les choses extrêmement complexes, c'est que pendant longtemps, dans la recherche en sciences humaines, notamment sur les questions de motivation également, on a cherché à lister des facteurs, on a cherché à lister des variables, on a cherché à comprendre ce qui était important, ce qui n'était pas, etc. Aujourd'hui, on sait que la clé est dans la notion d'interaction, que ça ne suffit pas d'identifier des paramètres, que ce qui est important, c'est la manière dont ils interagissent. Et j'y reviendrai après, du point de vue de l'innovation et du point de vue de la créativité du chercheur, pour nous, elle est là. Elle est de construire des méthodes, de construire des modèles qui s'intéressent à des écosystèmes, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des écosystèmes, où toutes ces variables dynamiques dans des systèmes, nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes un système dynamique de milliards de cellules en constante évolution, en constante redéfinition, entourées par des événements qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, sortir de recherches traditionnelles où on prend une variable, une autre variable, on regarde l'effet de l'une sur l'autre et on fait des tests de statistiques, vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est vraiment l'enjeu des 20 dernières années. Parce qu'on sait que c'est important. On sait que ce sont ces interactions entre le sociologique, le psychologique, le biologique, l'environnement, les caractéristiques internes, que c'est toutes ces interactions et ces conflits même qui sont pertinents pour analyser un système et un dispositif, mais malheureusement, on n'a pas encore bien les moyens et on n'a pas encore inventé les bonnes façons efficaces de comprendre tout ça. Alors après, donc, nos recherches, elles se situent, donc, ce sont des recherches appliquées, donc l'objectif de toute notre recherche, c'est de concevoir des dispositifs, c'est d'être en relation constamment avec les enseignants de langue, et dans une relation, dans un va-et-vient perpétuel dans les deux sens. Nous apportons un certain nombre d'éléments de réponse, les enseignants aussi, les enseignants amènent des questions et nous conduisent à interroger, à critiquer nos modèles, à les revoir, etc. Cette interaction est fondamentale.
In contrast with strict language for specialist research, Laerdal seeks to relate epistemology to didactical questions, such as for what purpose is also taught, for which public, with which tools, which teaching and learning design, evaluation. Of course, in this respect, the technological factor is of paramount importance. In this pursuit, researchers analyze interplays between the professional and cultural content, the different languages used, the instruments, and of course, the actors involved in didactic situations.
Voilà. Donc là maintenant, je vais vous parler de la création du FabLang qui a été créé en 2015 à Toulouse. Voilà. Donc l'idée du FabLang m'est venue un beau jour. Enfin, je passais un beau jour successivement sur plusieurs jours. Lorsque j'en ai parlé au président d'université, à mes collègues, etc., scientifiques, et notamment à la responsable des Fab Labs, à Paul Sabatier, tout le monde m'a regardé avec des yeux complètement éberlués en me disant « Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais où sont les machines? Où sont les... où est l'impression en 3D? Mais c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu veux faire ?» etc. Et en fait, L'idée m'est venue parce que j'étais complètement séduite par cette idée des Fab Labs. Et donc, je suis allée voir vraiment la littérature, ce qu'ont pas fait tous nos collègues français du MIT sur la création des Fab Labs, sur le père des Fab Labs, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui est important. Et tous les principes et toute la philosophie du Fab Lab, pour moi, s'appliquent à la fabrication d'une langue. À la création d'une langue, à la fabrication d'une langue, à la production d'une langue. Et c'est un retour au faber, un retour au fer, un retour à la monstration, au détriment de la démonstration, un retour à l'extériorisation de ce qu'on fait et la possibilité, de façon collaborative, de pouvoir travailler ensemble à une production qui, là, est une production langagière et toujours dans ce domaine de spécialité, de toute manière, dans une situation dans laquelle la langue est de toute façon un instrument, où on n'apprend jamais la langue pour la langue, puisqu'on apprend la langue parce qu'on est un futur avocat ou médecin ou danseur qui va danser aux États-Unis. Donc, de toute façon, cette fonction instrumentale de la langue entrait tout à fait avec la philosophie des Fab Labs. On pourra en parler pour ceux qui... Voilà. Alors, je vais voir le point de vue pédagogique et le point de vue du chercheur. Donc, le Fab Lab, au CRIS, c'est un lieu, c'est une nouvelle pédagogie. Voilà, c'est une nouvelle façon de travailler avec les étudiants. Donc, qu'est-ce qui change pour ceux qui ont travaillé sous le joug du cadre européen, qui sont pénétrés du cadre européen, il doit y en avoir dans cette salle, nombre d'entre eux. Qu'est-ce qui change? Dans les activités, il n'y a rien de vraiment différent, et que c'est simplement l'idée de rassembler dans un même lieu ces activités qui sont très pilotées par la problématique du projet, depuis Montessori, Freinet, etc. Ce qui change là, c'est le rôle des enseignants, je dirais, comme dans un Fab Lab. C'est-à-dire que moi, quand je rate dans mon Fab Lang, les étudiants ne savent pas qui je suis, ne savent pas quel diplôme j'ai, ne savent pas la fonction que j'occupe, absolument pas. Bon, au bout d'un certain temps, ils ont fini par le savoir, là maintenant on est au milieu de l'année, ils m'appellent par mon prénom, ils me font la bise quand ils arrivent, et puis un beau jour, ils apprennent que... Voilà, je suis professeur à l'université. Mais on essaie d'avoir vraiment, on construit vraiment un projet avec eux. Voilà ce qui change par rapport au cadre européen. C'est-à-dire qu'on n'est pas des personnes qui accompagnent un projet en tant que coach uniquement. On a un projet avec eux dans lequel la langue étrangère est nécessaire, est une médiation avec des interlocuteurs, avec un but poursuivi, alors qui peut être économique, qui peut être professionnel, qui peut être artistique, vous voyez ce que je veux dire. On construit ensemble des choses avec l'étranger. Et nous, ça nous intéresse que ce soit construit. Vous comprenez ce que je veux dire psychologiquement? Pas seulement comme prof, pas d'abord comme prof, comme individu, comme être humain. Et cette collaboration, elle nous intéresse, et on voit tous les jours que moi je peux apporter des choses aux étudiants, mais qu'eux savent plein de choses. Et quand on se met au boulot, et quand on réalise, et quand on crée avec Todd Shimoda, que vous allez voir tout à l'heure aux États-Unis, eh ben on oublie un petit peu voilà, toute cette dimension très, très institutionnelle qui est très pesante. Alors, du point de vue de la recherche, donc simplement du point de vue des chercheurs, du point de vue de la méthode, rien que vous ne connaissiez parfaitement, simplement il est clair que nous travaillons dans la perspective de la recherche-développement, beaucoup plus que la recherche-action. Nous travaillons sur des prototypes, sur des dispositifs, et donc nous les testons avec les outils de la recherche, nous les expérimentons et nous les améliorons. Avec l'idée qu'à un moment donné, on est arrivé à un certain système, à un certain dispositif, et qu'à partir de là, on peut le diffuser dans l'université, on peut le diffuser dans l'école, et donc on passe là, à ce moment-là, des actions de formation conjointe, etc. Voilà. Alors, du point de vue théorique, pour ceux que ça intéresse, mais je ne vais pas insister là-dessus, nous rejoignons en fait, j'ai oublié quelque chose, des choses qu'on sait depuis très longtemps en ergonomie, dans l'analyse du travail, qui est une du parti, qui est un des axes de recherche du labo, l'ergonomie cognitive appliquée aux langues étrangères, sur tout ce qui concerne la collaboration, tout ce qui concerne l'interdisciplinarité, et puis emerging knowledge, emerging language. Ça, ce sont les théories de l'émergence en langue. Je ne vais pas beaucoup en parler là parce que ce sont des choses très très complexes liées à des modèles computationnels, neurosciences, etc. disons pour ceux que ça intéresse, que en réalité, avec tout l'apanage de la nouvelle technologie et du digital, en fait, fondamentalement d'un point de vue épistémique, c'est un retour à l'associationnisme du XIXe siècle, un associationnisme élaboré, bien évidemment, mais qui repose sur des notions d'occurrence, des calculs d'occurrence, enfin sur le rôle de l'input de l'environnement. Et puis aussi, alors nous associons cet emerging knowledge qui caractérise vraiment la langue à tout le courant en sciences humaines de embedded cognition, la cognition incarnée, je ne sais pas si vous connaissez, enfin les théories de l'inaction, notamment chez Varela, qui disent tout simplement qu'un individu développe, apprend beaucoup mieux si ce qu'il apprend, ce qu'il développe, est inscrit dans son corps, est inscrit dans ses émotions. Et donc, c'est pas pour faire plaisir aux gens qu'on dit ça, c'est pas parce qu'on est des gentils, hallucinés, des langues, qui avons envie que, c'est pas parce qu'on veut que tout le monde s'aime, moi j'aime pas tout le monde, il y a des gens que j'aime pas du tout, et ça fait partie de mes émotions, et c'est très important aussi dans ce que je peux apprendre ou pas apprendre. Donc ce sont pas des bons sentiments. Ce qu'on sait maintenant vraiment, et c'est là où c'est intéressant de travailler dans une université où on est avec les biologistes, les neurologistes, avec l'imagerie corticale, on sait maintenant, on peut dire cette importance de l'émotion. Cette importance de l'incarnation, du passage par le corps pour la mémorisation et pour la construction des connaissances. Et bien sûr, comme facteur, comme tout facteur motivationnel, c'est au moins ce que je crois avoir montré dans mes travaux, tout facteur motivationnel étant à la fois motivationnel et démotivationnel. Et on ne le trouvera motivationnel que si on ne veut pas chercher le contraire. Mais si on a une attitude neutre de chercheur, on s'apercevra que pour certains individus, l'émotion peut être positive et que pour d'autres, le même dispositif, la même variable peut être négatif, ce qui rend les choses pas très simples. Alors, donc voilà les trois programmes. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Trois exemples pour vous montrer l'innovation. Voilà. Alors maintenant, quelle forme très différente ça peut prendre aujourd'hui par la recherche. La création d'Ulysse, l'année dernière. On a créé cet observatoire, Ulysse, et c'est là où je m'adresse à vous, enfin, à tous les gens que je ne connais pas ici, dont je ne sais pas à quel titre ils sont là, ce qu'ils font dans la vie, etc. Mais en tout cas, ils sont les bienvenus. Ulysse est à l'état expérimental, et donc nous avons créé un observatoire, une interface entre l'entreprise, tout simplement, et le laboratoire, grâce au travail de thèse d'une collègue qui a réussi à passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire à aller observer, enregistrer, interroger des techniciens d'Airbus de façon longitudinale dans leur travail de technicien à Airbus. Et on a pu voir le décalage entre la formation universitaire et ce qui se passe vraiment dans l'atelier. Donc nous pensons que c'est fondamental. Et pourquoi un observatoire ? Parce que nous voulons en faire un lieu de rencontre. Comme nous rencontrons les enseignants tout le temps avec des échanges qui vont dans les deux sens et sans aucune hiérarchie, nous pensons important de rencontrer aussi le monde de l'entreprise, le monde professionnel, non pas pour qu'on nous dicte des leçons, mais pour qu'on enrichisse notre travail d'enseignant et de chercheur. Autre exemple très différent, Check Your Smile. Alors ça, vous pouvez regarder sur Internet. Donc ça, c'est un projet IDEX qui a été retenu comme projet IDEX. C'est une jeune collègue qui a développé ça depuis 2 ans. Vous pouvez aller sur Internet voir ce que c'est. C'est innovant, bon, dans ce sens que... Alors, elle a pris un problème partant de son expérience d'enseignante, qui est la difficulté des étudiants à apprendre le vocabulaire de spécialité, qui peut être parfois vraiment très, très rébarbatif, très compliqué, etc. Et nous sommes convaincus que sans le vocabulaire, sans la sémantique, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas négocier, on ne peut pas agir, on ne peut pas faire. C'est extrêmement important dans l'apprentissage d'une langue. Et comme elle s'intéresse beaucoup au jeu, qu'il soit sérieux ou pas sérieux, elle s'est inscrite en ergonomie cognitive. Derrière tout son travail, il y a l'ergonomie cognitive des games, des gamers. Et donc, avec aussi InnovaLangue, elle travaille dans le cadre d'InnovaLangue à Grenoble avec Monica Masperi, toute une équipe qui travaille sur les games pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Et donc, elle a construit ce dispositif dans lequel ce sont les étudiants qui viennent dans Check Your Smiles qui intègrent leur vocabulaire de spécialité avec une modalité particulière, le mot, la prononciation, la traduction, des exemples, tout ça. Et puis après, ils jouent ensemble. Il y a toutes sortes de jeux autour de ce vocabulaire, soit de façon individuelle, soit de façon collaborative. Voilà. Alors, on a obtenu un financement pour avoir une bonne plateforme, pour refaire la plateforme qui était un peu bricolée. Et dernier exemple, le debasing. Bon, je vais arrêter là sur le debating. Alors moi, j'aime beaucoup cet exemple du debating, parce qu'il n'a rien de nouveau. Il n'a rien d'innovant en tant que tel. Tous les profs font des débats en classe, on a fait des débats, etc. Et nous, on en fait un objet de recherche. Pourquoi ? Parce que dans la façon dont il est mené à Toulouse, depuis 5-6 ans, par une collègue qui fait sa thèse avec moi là-dessus dans une école d'ingénieurs, et puis ça a gagné toutes les écoles, et puis maintenant ça se répand beaucoup, c'est beaucoup pratiqué. Il y a l'inscription dans l'émotion et il y a l'inscription dans le corps, tel que nous le faisons fonctionner. Donc nous en faisons un objet de recherche pour voir, par rapport à des débats traditionnels tels qu'ils sont menés souvent en classe ou ailleurs, sous une forme assez simple. Là, c'est une forme très, très, très structurée, très pensée, très, pour que tout le monde s'exprime et que le corps et l'émotion soient présents. Nous faisons des observations, nous filmons, nous enregistrons et nous faisons passer des questionnaires, bien sûr, aux élèves et aux étudiants, pour voir ce qu'ils retirent de ça. Et je vous dirai après pourquoi je pense que, quelque part, c'est innovant. Voilà, tout à la fin. Voilà, donc ça, c'était... Alors, il faut que je sorte de là. Donc ça, c'est un... C'est échappé, non ? Pardon ? Ah oui, je peux réduire. Elle est où, là ? Ah oui, voilà. On va faire comme ça. C'est encore plus simple. Alors maintenant, je vais vous montrer, à propos du colloque... qu'on a organisé au mois de décembre, qui s'appelait Créativité et Innovation, là, qui était un colloque qui rassemblait tout le monde. J'ai proposé à trois collègues, anglicistes, professeurs, tous les trois, professeurs des universités, je dis soyons innovants, et bien soyons innovants même pour un colloque. Arrêtons de faire des communications de 20 minutes avec des prises de notes. Soyons innovants. Donc, comme je savais qu'ils avaient fait quelque chose de très intéressant à la Sorbonne l'année dernière, je leur ai donné carte blanche le samedi après-midi, et c'est ce que vous allez voir un petit peu. Si, il veut bien. Ah bon, il ne veut plus passer. Oh, que se passe-t-il ? Alors. Ah ben voilà. Donc on a appelé ça, voilà, celui d'après, on a appelé cet après-midi du samedi, les gens sont venus et ont assisté à une assuration artistique. Alors je dis simplement que sur l'affiche du colloque, vous allez voir deux personnes très intéressantes, très importantes. Isabelle Pozzo, qui est, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est chercheure, qui est professeure à l'école de Lausanne, c'est un peu l'équivalent d'une SP à Lausanne, et qui travaille sur le théâtre et l'utilisation du théâtre en classe de langue avec ses élèves. Et puis le professeur Trott Shimoda, que nous avons reçu comme professeur invité, qui a cette particularité d'être à la fois le responsable de tout ce qui est technologie éducative dans son université en Californie, et qui est en même temps un écrivain connu et qui a reçu quelques récompenses et qui écrit des romans très sensibles, culturellement très passionnants, parce qu'influencés par sa culture japonaise, et graphiquement aussi intéressant. Alors, j'ai souhaité le faire venir parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, dans nos domaines, quand on parle d'innovation, c'est la techno. Et quand on parle de créativité, c'est les artistes. En langue étrangère, c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça. Donc là, ce colloque a été vraiment passionnant, vraiment très fort, très émouvant, parce qu'il y a eu cette rencontre. On a voulu que les gens soient mélangés dans les ateliers et pas qu'ils se retrouvent après pour les communications. Ah ben oui, mais alors là, c'est du digital et tout, donc je vais là, voilà. Donc voilà, donc je vous laisse regarder ça. Isabelle Pozzo, ça. Donc là, vous allez voir des méthodes, des dispositifs innovants, vraiment nouvelles dans le domaine des langues étrangères, à travers les activités artistiques. Enfin, nouvelles. Nouvelles pour beaucoup de gens, parce que c'est pas forcément... Oui, donc là, juste une explication. Ces étudiants en anglais préparent un travail sur Shakespeare. Voilà, un quart d'heure.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions précises sur cet exposé? Sinon, vous restez à la tribune et vous participerez bien sûr au débat général. S'il y a donc des questions précises, on les prend. Puis ensuite,
Jean-Frédéric Taplitsky, Association Famille Rurale. Je me pose juste une question par rapport à votre exposé. Vous ne citez absolument pas Marcel Jousse.
Il est derrière ce travail. Il est derrière le travail tout de Monsieur Lapeyre.
Oui. Avec des études qui se sont retrouvées exactement similaires par l'école de Palo Alto sur d'autres populations.
Bien. J'ai cité personne, hein, parce que un quart d'heure, je me suis excusée au début pour l'absence de référence.
Si pas d'autres questions, je vous propose à Madame Dubosquet de rejoindre la tribune et d'intervenir donc à partir de son observation qui est le laboratoire Erimit et qui travaille donc qui interviendra plus spécialement elle sur la langue, le paysage, l'histoire, les rencontres.
Merci de m'avoir donné cette occasion de venir jusqu'à Poitiers. Voilà. Alors, j'écoutais ma collègue et je veux dire que je suis enseignante-chercheuse à l'université de Rennes, qui est une université, j'appartiens à l'unifère de langue, une unité de formation et de recherche en langue qui accueille 10 départements de langue et un centre de langue qui s'occupe en fait de l'enseignement que nous venons de voir, qui est extrêmement important, de formation d'étudiants qui ne sont pas des spécialistes en langue étrangère, mais qui utilisent donc et qui en ont besoin et qui doivent vivre aussi avec ces multilangues. Alors, le groupe que je dirige est un groupe un peu particulier parce que nous travaillons autour de 3 concepts importants, et là je ne vais pas non plus rentrer dans les détails sur les références, qui sont mémoire, identité, territoire. C'est un groupe d'une quarantaine de chercheurs qui réunit à la fois des gens qui travaillent sur le Brésil. Enfin, j'ai une collègue qui est d'ailleurs à l'Institut universitaire de France, qui travaille sur l'altérité, l'indianité, le problème de la population indienne au niveau des Amériques, mais surtout le Brésil, mais elle travaille aussi avec le Québec, etc. Nous avons des sinisans, des Chinois, des spécialistes du Chinois, qui travaillent aussi sur l'identité et sur leur rapport avec les Arles. Nous avons des germanistes, nous avons des Russes, nous avons des... Et moi, je suis hispaniste. Est-ce que... Et des arabisants, j'allais oublier les arabisants qui travaillent. Alors donc, notre travail, nous, c'est plus sur ces cultures que nous voyons. C'est-à-dire, on s'est rendu compte, on nous dit, vous êtes chercheurs en quoi, vous, les linguistes, là, vous faites quoi? Vous êtes quoi exactement? Vous devez apprendre des langues, et en plus, vous avez vu les Français, le niveau de langue qu'ils ont, ils sont nuls. Qu'est-ce que vous faites? Alors voilà, il faut qu'on invente, il faut qu'on ait une baguette magique, qu'on transforme tout le monde en polyglotte. Et c'est vrai que c'est un vaste travail, comme vous avez pu le voir tout de suite. Et puis aussi, moi, il me semble que on travaille pour un cancer, contre une lutte contre un cancer, qui est l'ostracisme, qui est la méconnaissance de l'autre. Et quand on ne connaît pas l'autre, on en a peur. C'est ce qu'on a remarqué, et on le voit de plus en plus. Malheureusement, en ce moment, c'est peut-être encore beaucoup plus sensible. Et là, justement, puisque j'ai une composante arabisante... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur vient de lancer un appel pour qu'on travaille et qu'on réfléchisse sur le terrorisme et la radicalisation. Ils ont beaucoup parlé de l'islam, mais je pense que malheureusement, l'islam n'a pas à être plus focalisé qu'un autre. On se rend compte, moi qui suis hispaniste, que le problème du terrorisme, de la radicalisation, des extrémismes, touche malheureusement notre terre entière. Et donc, notre travail à nous, justement, c'est d'essayer de voir comment on est là, le rapport à l'autre, quel est notre rapport à l'autre, comment on se définit en identité, comment on se définit en territoire, et comment on peut construire ensemble, c'est-à-dire comment... Par exemple, moi, je suis hispaniste et je vais vous donner deux ou trois petits exemples comme ça pour vous montrer quelques comiques, d'ailleurs. Le premier que j'enseigne aussi en première année, j'aime beaucoup accueillir les premières années. Et l'Espagne, vous voyez, c'est le pays juste à côté, là. Vous passez les Pyrénées, c'est juste à côté. Tout le monde connaît les danseuses andalouses. Tout le monde nous dit, d'ailleurs, je me rappelle, une fois avoir accueilli des Galiciens, des Catalans, et on a été mangés dans une bodega en Espagne. À Rennes, un monsieur absolument adorable qui nous a dit « Oh chouette, vous avez des Espagnols, on va danser le flamenco ». Demander à des Catalans de danser le flamenco, c'est comme demander à des Bretons de danser la bourrée. Donc voilà, pour vous montrer un peu les exemples que nous pouvons avoir. Donc il y a une espèce de cliché qui s'est créé. Alors le cliché espagnol, c'est simple, il a été créé tout bêtement par les romantiques. C'est-à-dire que les Français ont découvert l'Espagne assez tard, grâce à un grand homme, si on peut appeler ça un grand homme, Napi Bonil, l'appellent les Espagnols. C'était un empereur chez nous, un grand empereur chez nous, et un affreux envahisseur pour l'Espagne, qui s'est un peu servi en un certain nombre de choses. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert El Greco, Velázquez, etc. Donc, on va essayer de positiver la chose. Il faut toujours être positif dans la vie. Et c'est comme ça que les Français ont découvert l'Espagne. Et au milieu, on était dans cette espèce du 19e. On s'est dit, tiens, on a confondu un peu avec l'Orient. C'était pas cher, c'était de l'autre côté des Pyrénées, on descendait. Donc Carmen, les Saint-Brunis, alors on a eu Mérimée, ils sont tous passés faire... Monsieur de Chateaubriand a été faire un tour aussi en Espagne. Et du coup, ils nous ont inventé un mythe espagnol dont on n'arrive malheureusement pas à se défaire. Ça, alors, un des premiers travaux de l'hispaniste en France, c'est déjà d'essayer de comprendre d'abord que l'Espagne, ce sont des identités. Et on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans la radio, ce sont des identités différentes, c'est un pays différent, c'est des conditions différentes. Et quand je commence mon cours de première année, c'est très simple, je dis aux étudiants, regardez la carte. Ça s'appelle une péninsule. C'est quoi une péninsule? Ça veut dire que quand il y a une grève de camionneurs en France qui bloque le truc, les Portugais et les Espagnols, eh ben, ils sont coincés. C'est déjà un premier impact. Et regardez comment c'est fait. C'est un pays qui est entouré de mers, mer Méditerranée, mer Atlantique, donc évidemment une destinée bien particulière. Et puis, c'est un pays de montagnes, c'est-à-dire on a toujours l'impression que l'Espagne, c'est la plage. Oui, c'est la plage, mais la Costa da Morte, elle ressemble beaucoup à la côte bretonne, hein, au-dessus des coupées, puis il fait froid. Hein. Mais il fait chaud, c'est vrai que la Méditerranée est plus chaude, mais en même temps, si vous voulez, c'est un pays qui est extrêmement marqué par les montagnes. Et ce qui va dessiner, je dirais, réellement des identités. Par exemple, la Galice, quand on va en Galice, eh ben, il faut passer par la montagne. Hein. Il faut traverser cette montagne. Et donc, on se rend compte que l'Espagne s'est développée de façon très différente, puis ils n'ont pas eu la Révolution française. Nous, on a raccourci notre roi, l'Espagne n'a pas eu le temps de raccourcir le sien. Donc, du coup, en fait, par rapport à ça, ça s'est développé de façon très, très différente. Et puis, depuis très longtemps, existent en Espagne des fueros, des privilèges qui étaient donnés au tout début au Moyen-Âge. Les paysans d'Espagne, au début du Moyen-Âge, ils étaient libres, ils avaient leurs terres. Dans le nord de l'Espagne, c'était des colons, ils étaient propriétaires de leur terre. Donc ça vous façonne complètement un territoire. Et moi, mon travail en tant que chercheuse, c'est justement de démontrer que chaque pays a sa façon, alors que les conditions de situation du pays, les conditions de développement de ce pays, comment un pays se construit, comment des idées d'identité se construisent, ben, à partir de phénomènes très simples. On regarde la géographie, on travaille avec les géographes, on travaille avec les historiens beaucoup, hein, d'ailleurs on touche souvent un peu l'histoire, et puis on essaie de, et avec les linguistes évidemment, pour essayer de comprendre comment petit à petit ce monde se construit. Et je demande à mes étudiants de simplement de commencer comme ça, de construire, d'essayer de comprendre que les autres se construisent aussi différemment. Et la langue espagnole, comme n'importe quelle autre langue, est un paysage, ce que je disais à monsieur Daniel quand il m'a demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais... Moi, je ne suis pas dans l'apprentissage, la didactique des langues, ce qui est absolument... On est tout à fait complémentaires, mais mon travail, moi, c'est d'essayer de rentrer dans les cultures et de regarder justement ce qu'il y a derrière la langue, ce que nous révèle la langue, en quelque sorte. Alors, le deuxième exemple que je voulais vous prendre, il est assez drôle parce qu'on a beaucoup travaillé à un moment donné. Donc, en tant qu'hispaniste, moi, j'ai travaillé sur la mise en place des communautés autonomes en Espagne. L'Espagne est composée aujourd'hui de 17 communautés autonomes. Vous allez avoir des exemples de basque, de langue basque. La langue basque, en effet, est une réalité. Il existe une communauté autonome qui s'appelle Euskadi, qui s'appelle le Pays basque, qui est formée de 3 provinces et qui aimerait bien d'ailleurs se raccrocher un peu avec les provinces françaises puisque ça dépasse. C'est à cheval sur les Pyrénées. Hein. Et un certain nombre comme ça de communautés se sont mises en place. Et en 1978, quand la démocratie est revenue en Espagne, après la disparition 1975 de Franco, on a mis en place, entre 1975 et 1978, un nouveau système qui est un système complètement décentralisé. Alors, la raison de ce système décentralisé, c'était de redonner la démocratie, c'est redonner le pouvoir, c'est-à-dire la représentativité, si possible, le plus proche. Mais c'était aussi répondre à des réalités concrètes de l'Espagne, c'est-à-dire qu'il existe en Espagne plusieurs langues et surtout plusieurs communautés, je dirais, culturelles, des cultures très très différentes qui s'étaient développées pour des raisons géographiques mais aussi historiques hein, et qui avaient leur propre histoire en quelque sorte. Alors, il s'agissait de, comme ça, en sortant d'une dictature assez dure, d'essayer de faire vivre ensemble des gens qui avaient été soumis à une langue, à un pouvoir, mais qui avaient une culture propre, qui avaient une façon de fonctionner propre, et qui avaient au cours de leur histoire une très très grande autonomie. Alors, à ce moment-là, on a vu surgir en effet des drapeaux, et on voit la construction d'une identité avec le drapeau, des hymnes, on a des hymnes, je pense aux Catalans qui ont El Segadors, etc. On a vu des choses sortir. Et puis, on a vu se construire des histoires. Alors, la difficulté, ça va être, en effet, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce conflit entre comment on construit une identité avec les autres, pas contre les autres. C'est évident qu'on se construit aussi un peu contre l'autre, mais comment avec les autres, et comment petit à petit, on fait de cette identité non pas quelque chose qui va nous renfermer sur notre propre nombril, et c'est un peu la tendance qu'on sent aujourd'hui dans cette énorme globalisation. Et notre travail, c'est ça, c'est de voir à partir d'exemples précis, d'exemples qu'on étudie sur des cas bien précis, comment ces exemples peuvent au moins nous éclairer sur des processus de construction identitaire. Comment on construit une identité avec une langue, pas forcément d'ailleurs, quelquefois la langue peut être commune à plusieurs pays, hein, mais comment on construit ça et par rapport à une histoire, et comment on construit cette histoire. Quels sont les faits marquants? Quel est le roman, le roman historique qu'on se construit et qui va permettre d'être partagé ensemble? Alors, moi, j'ai étudié quelque chose qui m'a beaucoup amusée. Moi, j'ai quelques racines bretonnes, mais j'ai coutume de dire que je suis hispano-armoricaine, comme ça, ça simplifie les choses. Et je trouve que c'est, le métissage est quelque chose de fabuleux parce que ça permet de changer et de voir, d'essayer de temps en temps d'avoir des perceptions un peu plus variées, de se poser sur des focales un peu différentes. Et j'ai étudié la mise en place de quelque chose qui était assez fondamental. Ça a été la Grande Encyclopédie galicienne qui a été mise, rédigée justement en 1978. Les Galiciens se sont dit, on a notre autonomie, ça y est, on est la communauté. On va essayer de comprendre, de retrouver notre histoire. Nous avons une langue, le galicien, qui ressemble, alors certains vous diront, c'est du mauvais portugais, ou les portugais, enfin bon, bref, ou le portugais serait bon. C'est une langue qui existe, qui existait à la cour d'Espagne au Moyen-Âge. C'est la cour de la langue, la langue de la cour, excusez-moi. Voilà, je commence, la langue de la cour. Et qui est devenue, je dirais, au XXe siècle, qui était perçue justement par le mépris qu'elle avait eu, comme la langue des bouseux. Donc, cette langue, il va falloir se la réapproprier. Donc, en effet, elle était surtout parlée dans la campagne, donc on va la réinstaller. Et puis, on va essayer, dans une grande encyclopédie, de réunir ce qui fait la Galice. Alors là, ça a été très, très drôle, parce que la première encyclopédie, d'abord, elle est rédigée en castillan, donc en espagnol, on dit castillan quand on est en Espagne. Et elle prend des exemples assez drôles parce qu'en fait, à travers ce choix de noms, de ce qu'on va mettre dans l'encyclopédie, on voit justement une cartographie de cette identité galicienne qui essaie de s'imposer, de se retrouver en quelque sorte. Et par exemple, bon, alors, la Galice a cette particularité d'avoir des hameaux et des lieux-dits, etc. Donc on va avoir une recopilation de tous les petits hameaux qui vont apparaître dans 600... Alors, vous avez des trucs qui ont des lieux-dits, c'est-à-dire il y a quelquefois trois maisons, où c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est accessoirement la capitale de la Galice. Ben, Saint-Jacques-de-Compostelle a 45 pages. Une petite ville d'à côté qu'on a 7000, eh ben, elle aura quand même 36 pages. Vous voyez, pour le rapport, ce que ça donne. Hein. Et puis, on va avoir des lieux-dits, et des lieux-dits avec des cartes. Alors, c'est super, les cartes, sauf que si vous ne savez pas, si c'est Trifouillé-les-Oies que vous avez là, et puis que vous ne savez pas qu'à côté de Trifouillé-les-Oies, à 10 km, il y a, je ne sais pas, une ville un peu plus grande, ben vous ne pourrez pas parce qu'en fait, leur façon de présenter est tellement focalisée, c'est du 1/125e, donc c'est hyper pointu. Et donc, ceux qui s'y retrouvent, c'est les gens du cru. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que comme ils ont mis tous les hameaux, tous les villages, etc., tout le monde était content parce que tout le monde y retrouvait ses petits, d'une certaine mesure. Et alors, il y a, alors ça, c'était assez drôle parce que bon, quand on cherchait les choses, on dit, oh là 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 là, où est-ce que c'est ? Donc, alors, Garcia Lorca, par exemple, qui est un poète qui est né à Grenade et qui est andalou, ben, il apparaît dans la Grande Encyclopédie galicienne parce qu'il a commis deux poèmes en galicien. Un autre apparaît parce qu'il y a un monument dans telle ville avec une citation. Vous voyez, en fait, il y a une réappropriation. C'est assez intéressant sur le rapport à l'identité. Et alors, les choses assez drôles que j'ai trouvées, alors, c'était sur en fait, des définitions des voisins. Par exemple, le Portugal. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, sous la notice Portugal ou Castille, puisque la Castille étant là. Et alors là, l'entrée Portugal, ça vous donne bourgade de la paroisse de Mouradel, qui est un tout petit village de Galice. Voilà. On ne parle pas du Portugal en tant qu'entité, en tant que pays voisin. Sur la Castille, alors la Castille, ça c'est du grand. On vous trouvait pointe qui forme la plage de l'Obeira Grande, située près du village de Sachasso, paroisse d'Albanqueiro. Il n'y a pas de définition de la Castille en tant que communauté autonome. Hein. Et si on continue comme ça, Espagne, alors Espagne c'est quand même assez drôle, c'est encore beaucoup plus drôle, c'est nom d'origine française. Une branche de cette famille est venue en Espagne et s'est établie dans un manoir à Palma de Majorque. Ce nom est très répandu dans la péninsule. Donc, je trouve que ce qui est intéressant là, c'est de voir un petit peu, donc à partir de ces exemples, on se rend compte de, petit à petit, comment se construit cette identité. C'est-à-dire, il y a carrément un oubli ou un déni des voisins. Alors, les Asturies, ça va parce qu'il y a eu des accords entre la Galice et les Asturies. Donc là, on va avoir des choses qui vont être reliées. Les Asturies le reconnaissent. Le Pays Basque et la Catalogne, on en parle un peu parce que quand même, eux aussi, ils ont un sort commun. Hein. Alors, on vous dit, bon, la Catalogne, c'est un pays à la personnalité historique et culturelle marquée. Elle se compose actuellement de provinces Barcelone, Tarragone, Lérida et Gérone. Et on ne va pas plus loin, on ne va pas trop loin non plus. Bon, il faut dire qu'à ces moments-là, quand on fait cette première encyclopédie, le président, le premier président de la, du gouvernement galicien, sera le, un ancien ministre de l'Intérieur de Franco. Donc ça calme aussi les ardeurs. Mais vous voyez comment on essaie de reconstruire cette identité forte, etc. Alors, ce qu'on voit apparaître, c'est l'Allemagne, et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est l'Amérique, parce que ce sont des terres d'exil. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'identité galicienne va se construire grâce, et va se, le galicien s'est maintenu aussi pendant toutes ces années de dictature, etc., grâce aux exilés qui vont faire fortune soit à Cuba, soit en Argentine, Buenos Aires étant la première ville galicienne du monde, et qui vont envoyer de l'argent pour qu'on ait des écoles, on puisse continuer à parler galicien, à entretenir la langue galicienne et entretenir la culture galicienne. Et donc, quand la démocratie va revenir et quand la communauté va se mettre en place, vous aurez une prise en compte, en fait, de cet héritage qui va être entièrement financé, en fait, par l'extérieur, par les émigrés. Donc, je trouve que ce qui est intéressant dans ces différents exemples qu'on travaille, on les travaille sur d'autres langues, sur d'autres cultures, on se rend compte de ce besoin, de cette nécessité et de ce que représente la langue. La langue, en fait, ce que je vous disais quand vous m'aviez demandé de participer, je crois que fondamentalement, c'est un vrai paysage. C'est-à-dire qu'à travers la langue, la façon dont on a de nommer les choses, de les désigner, d'accorder une importance, la forme qu'on utilise, elle révèle plein de choses. Elle révèle à la fois un patrimoine, et on le voit, un paysage. Le paysage, par exemple, tout le vocabulaire, parce que dans cette encyclopédie, c'est tout le vocabulaire, notamment de la faune et de la flore en Galice, qui est absolument pointu, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la flore bretonne. Donc c'est pour ça que c'était amusant, parce que les Bretons s'y retrouvaient, les Celtiques s'y retrouvaient. Hein. Vous avez tout, c'est vraiment extrêmement précis. Et alors là, c'était bilingue, c'était quand même assez intéressant. Donc on a tout ce paysage-là, mais on a aussi toute l'histoire. Et vous voyez, par exemple, dans les notices que je vous ai données à titre d'exemple, ça démontre aussi comment se construit et quels sont les rapports au niveau de l'histoire, comment ces rapports apparaissent dans la langue. Et comment petit à petit, cette langue est un fait, elle grandit, elle se construit comme l'identité. Au flux des temps, au flux des invasions, au flux des rencontres, parce que l'Espagne a connu, bon, c'est une terre, je vous disais, terre entre deux mers, mais c'est une terre qui a connu un certain nombre, de visiteurs, hein, les Carthaginois, je pense aux Libanais, aux Carthaginois, aux Romains, aux Grecs, etc. Les Romains, ayant été des envahisseurs, puisque ils ont carrément colonisé une grande partie de l'Espagne, sauf le Pays Basque. Les Basques ont résisté gaillardement, donc ce qui a permis aussi, voyez, de garder un espace avec une langue qui est tout à fait particulière, qui n'est pas romanisée. Hein. Donc cette histoire-là, on la voit dans la gêne des langues, et c'est un peu ça que nous essayons de travailler. C'est un peu cette comment par rapport à l'autre, comment on se construit par rapport à l'autre. On est dans des sociétés de migration extrêmement importantes, et comment, par exemple, à travers l'exemple galicien, comment le galicien s'est retrouvé en Amérique latine, comment il s'est construit, qu'est-ce que l'Amérique latine a apporté ensuite à l'Espagne, pas seulement dans son assiette ou à l'Europe, mais aussi au niveau de ses échanges de façon de penser. Et alors, ce qui nous inquiète beaucoup, et c'est pour ça qu'on développe tout cet aspect de réflexion et de recherche sur langue et territoire, c'est qu'on a tendance, on le voit aujourd'hui, et je trouve que c'est très important la recherche que nous maintenons dans ces grands secteurs de langues qui sont les Landsat, enfin la didactique des langues, les apprentissages de langues et les apprentissages de culture, parce que la langue est une ouverture sur les cultures, hein, c'est à garder et à permettre d'abord le pluralisme, le plurilinguisme, qui me paraît être fondamental, c'est-à-dire que je pense que quand on apprend une langue étrangère, quand on la maîtrise, c'est-à-dire quand on arrive à penser dans une langue étrangère, ça veut dire qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre. On est capable de rentrer dans un autre système de pensée. Et ça, c'est fondamental. Et je pense à l'anglais, parce que l'anglais est une langue qui est absolument maltraitée. Le pauvre Shakespeare, et pauvre, je pense même à Faulkner, etc. Bon, il s'en remettrait mieux, Faulkner, je pense. Mais on se rend compte que la langue qu'on entend, quelquefois, le dit anglais, ça ressemble à tout, sauf à de l'anglais. C'est quelque chose qui est quelquefois... Et en fait, on perd de son sens. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les émotions, me paraît fondamental. C'est-à-dire, à partir du moment où une langue n'est plus qu'un espèce d'outil de communication, se réduit à un outil de communication, où la communication, c'est juste pour simplifier au maximum et se faire comprendre à minima, dans ces cas-là, on rentre dans un système de pensée totalitaire. C'est-à-dire, moi, je vois par exemple aujourd'hui, j'ai des collègues qui... On nous oblige très souvent à publier en anglais. Alors, nous, on a un peu de chance au niveau des linguistes, on arrive à sauver, mais il faut quand même qu'on ait nos abstracts en anglais. Alors, quelquefois, ça donne des résultats assez, assez cocasses. Les collègues d'anglais sont pliés en deux de rire en lisant les abstracts de nos collègues, de collègues non anglicistes. Mes collègues, par exemple, de psycho, me disaient l'autre jour, tu vois, moi, en psychosocial, je vais publier un article, il va être publié dans une revue en anglais. Donc, là, je vais faire très simple, sujet, verbe, complément. Alors, peut-être qu'en mathématiques, sujet, verbe, complément, ça peut peut-être passer, ou je m'amuse, mais enfin, dans certaines matières, c'est peut-être un peu plus simple. Mais quand vous touchez à la culture, quand vous touchez à la littérature, quand vous touchez, bon, l'art, ça va, on peut passer par autre chose, et là, on passe par le bout du corps. Mais sur la littérature, sur tout ce qui fait cette culture, si on commence à rentrer et à simplifier les choses, on le voit aujourd'hui avec nos élèves, même en français. Quand le français s'appauvrit, c'est la pensée qui s'appauvrit. Donc, quand on s'appauvrit en échange interculturel, là aussi, c'est la pensée qui s'appauvrit. Et alors, ce sur quoi on lutte aujourd'hui et ce que nous essayons de faire, y compris enfin, beaucoup au niveau de mon équipe d'accueil, parce que chacun travaille sur ses terrains, mais on met en commun sur cette notion de langue des territoires, langue de l'exil, l'exilé face à l'étranger, comment on se pose, comment on se positionne, les langues, le bilinguisme, les problèmes de bilinguisme ou de diglossie, c'est-à-dire quand on parle de langue, quelle est celle qui va, je dirais, être plus importante sur l'autre. On se rend compte que là, il y a des soucis économiques, bien évidemment, mais on le voit bien. Hein. Le catalan, par exemple, a pu se maintenir. Pourquoi ? Parce que le catalan est une puissance commerciale par rapport au reste de l'Espagne, une puissance de feu, je dirais, sur le plan des échanges économiques. Le Galicien avait perdu parce que le Galicien n'avait pas sa même pouvoir économique. Donc comment on fait ça et comment on maintient ces cultures ? Alors, il ne s'agit pas de les mettre sous verre parce que la langue, elle évolue, hein, elle fait partie, mais comment on change et comment on tient compte de ces valeurs ? Voilà, c'est le travail que nous essayons de faire. Alors, vous voyez, c'est très... Ça touche, à mon avis, enfin, nous, on travaille beaucoup avec les historiens, c'est vrai, parce qu'on a une formation avec les Sciences Po aussi, dans les structures que nous mettons en place, mais aussi avec les psychanalystes, etc. En ce moment, par exemple, on a un projet sur Gagner la paix, qui, à travers les romans et à travers les arts, comment on dit la répression, comment les vaincus peuvent s'exprimer, ceux qui n'ont pas eu la parole, je pense à la guerre d'Espagne, par exemple, ou au franquisme, mais à toutes les dictatures que peuvent connaître le monde aujourd'hui. Comment on accueille ces gens qui sont blessés dans leur identité ? Comment on accueille un enfant afghan aujourd'hui au sein de notre société, si on n'est pas capable de savoir que ce qu'il a vécu, son histoire, sa langue et sa manière de penser ? Et sa manière de se vêtir, parce que c'est tout ça, hein. C'est un ensemble sur lequel nous touchons. Voilà, je ne voudrais pas être trop longue, mais parce que bon, mais pour vous donner un petit peu, puis répondre à vos questions si vous avez besoin, parce que là, je vous ai cité, je suis partie de ma discipline, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus large que ça. Merci.
Merci. Même règle, questions précises si nécessaire, sinon on enchaîne, mais s'il y a une ou deux questions, on peut les prendre.
Bonjour, Alex Crému-Alcan, je suis récemment diplômé de l'université de Bordeaux 3 en anglais. Ma question s'adresse à vous deux. Vous parlez toutes les deux des plaintes qu'on entend souvent sur l'enseignement de la langue en France. Est-ce que vous ne feriez pas une différence entre l'enseignement oral et écrit ? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que la qualité de l'enseignement est surtout écrite en France. On apprend beaucoup sur support écrit, alors que les enseignements oraux, notamment en classe, avec des classes qui sont composées de 30 élèves, parfois plus, est très compliqué.
Et puis je compléterai si. Voilà.
Oui, c'est un sujet très intéressant. Avant d'arriver à Bordeaux, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'ESPE de Grenoble. Donc j'ai pu m'intéresser à ces questions de très près. Et en fait, comme chercheur, je sais que l'oral, c'est très compliqué. Et là, c'est pas la peine d'être dans la didactique. Hein, si on va recueillir des verbalisations de galiciens, de catalans, de choses comme ça, qu'on veut savoir, qu'on veut aller loin dans la question d'identité ou de la culture, ben, ces documents oraux, c'est clair qu'ils sont beaucoup plus difficiles à traiter, je pense, sûrement, hein, que des extraits de littérature. Donc la question que vous posez, elle sort de la didactique. Elle est vraiment dans la communication, mais au sens noble du terme, hein, au sens de comment on communique. Et moi, je me suis aperçue de cet abîme, de ce fossé qu'il y avait entre... Je vais attraper le corticolis. Si je fais comme ça, c'est mieux. Entre les instructions officielles qui étaient l'oral, centré sur l'oral, faites vos cours sur l'oral. Alors j'allais voir les stagiaires. Alors c'est l'oral. Penses-tu, tu commences à mettre ton magnétophone. Et tu n'as aucune connaissance, puisque à l'heure actuelle encore, les professeurs de langue n'ont aucune connaissance en psychologie cognitive. Il faut le dire sérieuse sur comment fonctionne le cerveau. Je parle bien sûr qu'il y a de la variabilité, mais il y a quand même des règles, quoi. Donc quand on fait passer un texte à toute vitesse à des élèves qui connaissent pas la langue, mais c'est sûr que du point de vue de la mémoire de travail, alors qu'est-ce qui se passe quand on est des adultes comme vous, bien polis, bien gentils, on se tait, on se dit j'attends que ça se finisse, je me casse les pieds. Mais quand on est en classe, on n'attend pas que ça se finisse. Et ça, alors on sort son portable, on commence à discuter, on commence à organiser la sortie du samedi prochain. Conclusion, les enseignants de langue, je vous assure, c'est 10 ans d'expérience là, hein, que je vous raconte. Hein. Donc les enseignants de langue, ben, ils ont peur, pour beaucoup, hein, je ne parle pas de gens, bon, il y en a des experts, des expérimentés, mais ils ont peur de l'oral, ils ont peur de ces tâches, qui sont en même temps des tâches très didactiques, donc souvent très centrées sur, faut montrer qu'on a compris. Bon, ben, montrer qu'on a compris, à côté de débattre comme on fait débattre les étudiants, à côté de se servir d'une langue pour faire quelque chose, pour quelque chose qui a un sens, pour aller rencontrer des étudiants finlandais, pour présenter un projet à des étudiants, à des élèves chinois, même de zones, je veux dire, Joël, elle travaille dans des endroits très défavorisés, des classes totalement plurilingues, à 6, 7, 8 langues dans la classe. Mais quand on a à faire ensemble, c'est ça qui manque. Donc moi, pour répondre à votre question... Pour moi, la question de l'oral et de l'écrit, je l'ai dépassée depuis longtemps. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vient de dire ma collègue. C'est la question de l'identité, la question de la culture, la question des tâches qu'on donne à faire en classe aujourd'hui qui vont amener les gens à travailler ensemble ou pas. Et de ce point de vue-là, on est dans la même problématique, hein, même dans des domaines différents. Voilà.
Et puis je crois qu'il faut... Il y a une chose aussi, c'est que bon, les cours de langue dans le secondaire ont diminué. On demande de faire de l'oral, mais quand on voit des enfants une heure et demie ou deux heures par semaine, je ne vois pas comment on peut faire. Alors, ce que dit ma collègue aussi est extrêmement important. Il y a une réflexion qui se fait. Bon, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une nouvelle réforme sur la formation des maîtres, hein, donc on suit d'ailleurs. Je fais partie du comité de suivi des ESP au niveau national. Bon, Bon, on veut. Le problème, c'est qu'on demande beaucoup aux enseignants, on veut leur faire faire plein de choses, donc du coup, on ne sait plus où est le principal. Et pour les profs de langue, il leur faut des groupes qui soient suffisamment... Il ne s'agit pas d'avoir 3 étudiants, il faut un groupe minima, mais quand on a des groupes de 30 étudiants ou de 30 élèves, où je vois à l'université, bon, pour l'anglais, moi, je vois, chez nous, c'est du 40, comment voulez-vous faire des cours de langue à 40 réellement de façon efficace? C'est pas possible. Alors, on nous dit, il y a le numérique. Le numérique, maintenant, c'est devenu la nouvelle baguette magique. Bon, ça coûte moins cher. Ce qu'on se rend compte, c'est que les étudiants, les élèves, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, et des gamins qui ont été par les conseils généraux, ont eu des droits à des tablettes, etc. Les bons sont toujours aussi bons, les nuls sont toujours aussi nuls, et les autres se sont bien amusés. Voilà. Mais au niveau de progression, rien. Donc, je pense qu'il y a réellement un problème. Et puis, je pense que si on commence un peu plus tôt l'apprentissage des langues en France... Parce qu'il y a aussi ça, parce que je pense que l'adolescent, notamment, on les voit en quatrième, moi j'ai des profs en quatrième, en quatrième ils sont super bien, en troisième ils commencent à être coincés. Donc comment on peut faire? C'est ça. Je pense qu'il y a tout un travail, et on n'est pas, mais bon, je regarde quelquefois comment les Espagnols parlent anglais. Je me dis, bon, on n'est pas aussi, on n'est pas pire.
Ça, c'est un des points, je voulais juste dire de ça, c'est toutes les recherches qui ont été menées depuis très longtemps maintenant sur le comportement des gens montrent que les Français sont complètement stigmatisés. Les Espagnols, ils vont parler, les Allemands, ils vont parler, les Chinois, ils parlent comme ils parlent, et puis voilà, et puis ils négocient. Pendant ce temps-là, alors le Français, lui, se dit, putain, il faut un S ou il faut pas un S, l'accent, je le mets sur quoi, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Pendant ce temps-là, le marché, il ne vaut pas sous le nez, c'est tout.
Question très courte parce qu'il faut qu'on enchaîne.
Je voulais juste remarquer une chose, c'est que vous amenez le numérique. Or, dans nos campagnes aujourd'hui, la réponse au manque de mobilité, c'est le numérique, ce que j'appellerais, moi, un barbelé.
Et deuxième question en groupe.
C'est pas une question, c'est juste une toute petite remarque. J'ai un peu travaillé sur le romantisme et puis ça me fait de la peine que vous en parliez comme ça. rapidement, je pense que Théophile Gautier, Mérimée, Victor Hugo, c'est vraiment un atout culturel et pas du tout un handicap. Et puis pour ce qui est de l'image d'Épinal, évidemment, nous, nous-mêmes français, on est très concernés et puis on se plaint souvent que l'image est très très réductrice. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir une idée réductrice, mais une idée, plutôt que pas de représentativité du tout de la part des autres, ce qui est vraiment très très triste pour un territoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça.
Réponse très courte, et on enchaîne.
J'ai rien contre, au contraire, hein, Chateaubriand. Non, ce que je veux dire, c'est que l'image, bon, le dernier des Abencerrages, par exemple, ça a participé à cette image orientale de l'Andalousie et de faire que l'Espagne est devenue simplement andalouse. Théophile Gautier, pareil. Hein. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est pas... Et, quand je faisais de l'humour parce que sur Napoléon, parce qu'on a découvert, malheureusement, je le dis, parce qu'ils ont quand même pillé gaillardement les toiles, etc., on a découvert l'art espagnol à ce moment-là. Mais ça n'enlève rien du tout au romantique, du tout, du tout. Et la deuxième chose, c'est que c'est très dur de combattre les clichés. Moi, je vois sur l'Espagne, c'est extrêmement difficile. Hein, extrêmement difficile.
Alors, une réaction très courte.
Très court. Moi, j'étais enseignant d'espagnol. Je vous assure que je peux faire des élèves qui ne sachent rien sur l'Espagne plutôt que savoir ce qu'ils savent. Parce que ce sont des clichés, je ne dirais pas romantiques, mais franquistes. Ouais. Parce qu'avant Théophile Gautier, par exemple, l'Espagne était un pays austère, sévère, obscur. C'est Gautier parmi eux qui crée l'image des Espagnols joyeux, qui aiment la fête. Le franquisme fait descendre l'industrie touristique. Et maintenant, comment leur dire que ça, ce n'est pas partir de zéro, mais partir de moins 10. Et moi, en tant que basse, j'arrive ici, c'est pire que les Catalans, c'est inouï ce qu'ils ont écouté. Et mes élèves sont persuadés que j'adore les toros, la paella que j'ai mangé deux fois dans ma vie, les toros que j'ai jamais vus. Vous comprenez, il vaut mieux rien savoir, plutôt que savoir des mensonges. C'est dur.
Bien. On enchaîne après, hein, s'il vous plaît. Merci.
Pour élargir le débat, il y a le même genre de réductionnisme, enfin d'image réductionniste. Triste contre l'Occitan, par exemple, avec cette image pseudo-romantique, on l'appelle comme on veut, mais où c'est la langue exotique en France, quoi. Donc il y a des images un peu comme ça de, je sais pas quoi, quoi, de bergers, de gens qui vont danser, chanter, enfin, avec une image fausse, quoi. Voilà.
Merci. Madame Chabat, si vous voulez bien prendre place. Et nous parler de la Maison des Langues. Vous restez, hein, toutes les deux, bien sûr.
Pardon. Non.
Parce qu'il sait l'espagnol, lui. bien sûr. Donc, on va se présenter d'abord à vous, mon collègue, monsieur Cuenca Montesino, qui est enseignant d'espagnol donc, à l'Université de Poitiers, moi-même qui suis enseignante d'anglais à l'Université de Poitiers, aussi directrice hein, de la Maison des langues de cette même université. Donc, on va vous présenter en fait les actions hein, de cette Maison des langues. On vient ici, on vous fait une petite présentation hein, modeste, juste pour en tant qu'acteurs locaux, on va dire, en langue. Hein. On parle de territoire aujourd'hui, donc pourquoi pas aussi parler hein, d'offres locales hein, en langue pour les uns et pour les autres. Et donc, c'est le cas des centres de langue, hein, des universités. Il faut savoir que maintenant, la plupart hein, des universités bon, offrent évidemment des formations en langue hein, dans les différentes UFR. Bon, ça fait déjà hein, plusieurs années que c'est le cas. Mais les centres de langue, hein, depuis la fin des années 90, se sont développés. Et la plupart hein, maintenant des universités françaises en sont dotées. La Maison des langues de l'Université de Poitiers, elle a été fondée en 1997. Hein, donc on est vraiment à la période hein, où les premiers centres de langues hein, se sont développés. On couvre hein, on a plusieurs actions. Et donc aujourd'hui, on voulait vous montrer bon, quels sont... les axes hein, en tant que qu'est-ce qu'on fait dans cette Maison des langues pour un petit peu mieux la connaître. On voit que au niveau local à l'Université de Poitiers hein, on est connu de certains mais pas encore de tout le monde, même de nos propres étudiants des fois qui sont pas vraiment au courant que le centre de langue existe. Les personnes extérieures peut-être encore moins, donc c'est pour ça qu'on voulait, on est là aujourd'hui pour vous présenter tout ça. Voilà, donc on propose plusieurs formations. Donc là on est sur notre site, si vous souhaitez hein, aller voir hein, ce qu'on propose. On va agir vraiment sur on a des missions hein, différentes. On a une mission essentiellement de ce qu'on appelle formation initiale, comme beaucoup de centres de langue, c'est-à-dire qu'on va, on va contribuer à l'enseignement, hein, apprentissage des langues dans les différentes composantes. Dans les différentes composantes de l'université, il y a déjà des équipes de langue hein, en place, donc des formations qui ont lieu. Mais le centre de langue va les appuyer, va aussi hein, créer et mettre en place des formations qui vont être transversales. Ce qui s'est développé notamment ces dernières années, et de plus en plus, on met en place hein, des formations qui vont être mutualisées, transversales, c'est-à-dire qu'un étudiant arrivant à l'université va pouvoir, quelle que soit sa filière, hein, va pouvoir prendre soit une UE libre, soit apprendre l'allemand, l'italien, le portugais, le russe, au sein hein, d'un dispositif. Là, on parlait tout à l'heure des dispositifs, là, on est vraiment là-dedans, qui va être vraiment commun à différentes filières. Voilà. Ce qu'on va proposer à l'heure actuelle, c'est sûr, ces dispositifs sont bon, essentiellement accessibles hein, aux étudiants de l'Université de Poitiers, mais on est en train de réfléchir aussi à les rendre disponibles et accessibles hein, à un public extérieur hein, qu'on pourrait intégrer hein, dans ces cours qui existent pour les étudiants. Il y a deux grands dispositifs qu'on propose depuis, un qui s'appelle la licence option internationale, hein, qu'on propose depuis plusieurs années, qui va permettre donc, aux étudiants arrivant à l'Université de Poitiers de se positionner soit sur le portugais, le russe ou le chinois pendant tout leur cursus de licence. Et donc, à la fin hein, de leur cursus de licence, non seulement ils obtiennent le diplôme de la licence, mais en plus un supplément au diplôme hein, qui atteste qu'ils ont bien participé à cette formation. Depuis peu, on a mis en place aussi le campus allemand-italien, là, qui permet aux étudiants ayant appris, bon, qui déjà hein, ont une expérience de l'apprentissage de l'allemand et de l'italien dans le secondaire, de continuer l'allemand et l'italien quand ils arrivent à l'université. Et ça, quelle que soit leur filière, que ce soit un étudiant de droit, de sciences, c'est l'avantage hein, de ces dispositifs. Il faut savoir que bon, les universités ont tendance à développer hein, des dispositifs comme ça, mais ce n'est pas le cas encore hein, de toutes les universités. Là, c'est un atout hein, pour les étudiants qui choisissent l'université de Poitiers et qui vont, ils vont avoir ce choix hein, de pouvoir constituer une autre langue et pas forcément, évidemment, n'apprendre que l'anglais. C'est sûr qu'il y a une dominance hein, de l'anglais à l'université, mais on est aussi sur des politiques plurilingues qui vont permettre aux étudiants hein, d'apprendre d'autres langues. Voilà. On propose également des cours aux personnes extérieures. Donc, on a vraiment une mission de formation continue. Je vais juste vous montrer rapidement. Après, bon, si vous souhaitez découvrir ce qu'on propose par vous-même, vous pourrez aller voir sur notre site. Essentiellement, des cours en anglais, en espagnol à l'heure actuelle. Mais c'est sûr qu'on aimerait les développer un petit peu plus et réussir à attirer dans un avenir proche hein, des personnes en formation professionnelle. Donc on fonctionne hein, comme un prestataire hein, de services également, où on offre la possibilité aux personnes en dehors de l'université de prendre des cours de langue. Voilà. On a un service de traduction aussi. Ça n'a pas l'air de fonctionner, mais c'est pas grave. Là, on est. C'est aussi un des services hein, qu'on propose depuis plusieurs années, où n'importe quelle personne ayant un besoin hein, en traduction, quelle que soit la langue, mais c'est sûr qu'on a une dominance hein, de l'anglais généralement, où les besoins se situent plutôt sur cette langue-là, mais pas seulement. Donc on peut soumettre une demande de traduction hein, par notre site. Voilà. Il faut savoir que également, on est intéressés, comme nos collègues, même si nous ne sommes pas enseignants-chercheurs, la recherche en didactique des langues. Donc, on met en place hein, des journées d'études, des colloques également, qui peuvent intéresser évidemment la communauté universitaire, les étudiants, mais également les personnes extérieures. Et on va d'ailleurs en mettre un en place en juin prochain, c'est un collègue qui s'appelle l'OGRS et qui va vraiment se focaliser sur la thématique de l'espagnol des affaires. Donc on est vraiment sur la langue espagnole. Et donc je vais laisser mon collègue vous en parler plus amplement.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, José María Cuenca Montesino, professeur d'espagnol à l'Université de Poitiers. Et aussi, dans un autre contexte, je viens vous présenter le GRES, le groupe d'espagnol, le groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité. Un groupe d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qui sont vraiment intéressés par tout ce qui touche la didactique de langues de spécialité ou de langues à visée professionnelle. Que ce soit dans les cadres de BTS, grandes écoles, langues étrangères appliquées, l'université, IAE, école de commerce, etc. C'est une association loi 1901, créée en 2006, qui regroupe donc d'enseignants et enseignants-chercheurs, essentiellement en France, mais pas seulement en France, bien au-delà de l'Atlantique. Et dans les cadres du GRS, donc, je suis le vice-président. Et Cette année, nous allons, comme chaque année, il y a une rencontre internationale ayant une thématique particulière. Cette année, c'est à Poitiers, à la Maison des langues de l'Université de Poitiers, organiser le colloque autour du thème de l'espagnol des affaires. Juste pour vous donner quelques indications, le colloque aura lieu du 16 au 18 juin à Poitiers. Les plénières auront lieu à l'Hôtel Fumé. Mais ce qui est intéressant et innovant pour ce colloque, c'est qu'il y aura deux tables rondes. La première table ronde se déroulera jeudi 16 juin de 15h30 à 17h au centre de conférences de Poitiers, Parking Toumaï. Nous allons rencontrer les responsables des services économiques et commerciaux des ambassades des pays où l'espagnol est langue officielle. Nous avons déjà confirmation de deux ambassades, l'ambassadeur de la Bolivie et de l'Uruguay qui seront présents, plus les responsables économiques de l'ambassade d'Espagne, du Pérou et de la République dominicaine. Donc, les démarches sont mises en place pour qu'il y ait un maximum de pays représentés, un total de 21. Le but, justement, c'est de creuser l'un des axes de notre colloque, c'est le premier, c'est les relations économiques internationales et la langue espagnole. Justement, c'est pour bien montrer, que, comme signalait l'une des collègues qui a parlé, que le tout anglais, la lingua franca ou le globish, n'est valable que pour des négociations ponctuelles et à usage unique. Si on veut vraiment fidéliser et avoir des rapports commerciaux avec des partenaires étrangers, l'un des atouts principaux, c'est la langue de l'autre. Et forcément, l'espagnol a un atout considérable dans le monde. Langue officielle dans 21 pays. Actuellement, plus de 105 millions de personnes qui parlent l'espagnol. Il y a des chiffres que vous pouvez trouver directement sur l'appel à communication si vous voulez creuser la question. Voilà, nous allons donc rencontrer le corps diplomatique qui va nous rendre compte du pouvoir de la langue espagnole dans les relations internationales économiques. Et cette table ronde sera modérée par un chercheur en économie appliquée espagnole qui travaille à la Fundación Telefónica, José Luis García Delgado, qui est membre de la Royal Academy des Sciences Sociales Espagnoles. C'est une personnalité qui a d'habitude de travailler avec nous et qui sera le modérateur de cette table ronde. La deuxième table ronde aura lieu de 17h30 à 18h. 17h-18h30, pardon. Cette table ronde aura pour but de rencontrer des entrepreneurs français, locaux, régionaux ou au niveau national, qui ont des liens ou des rapports commerciaux avec des pays où l'espagnol est langue officielle. Le but de cette rencontre, c'est justement de voir quel est le témoignage de ces entrepreneurs par rapport à l'expérience dans les pays hispaniques. Voilà. Donc, c'est creuser en quelque sorte aussi les points numéro 2, l'internationalisation des entreprises françaises dans les domaines hispaniques. Nous sommes en train de lancer un appel au partenariat auprès des entreprises pour nous ne sommes pas laboratoire de recherche, donc nous n'avons pas de financement spécifiquement dédié pour le développement d'un colloque de l'envergure de celui-ci. Le seul moyen ou un des moyens que nous avons trouvé pour pouvoir trouver les financements nécessaires, c'est de faire appel aux entreprises pour pouvoir mettre à bien un autre colloque. Cette table ronde sera modérée par les directeurs de la Chambre des commerces et industries latino-américaines en France. Et nous espérons pouvoir avoir un éventail d'entreprises représentatives assez large, des entreprises de Poitiers ou de la Vienne ou de la nouvelle région ou au niveau national, tout secteur confondu, public, privé, que ce soit du vin, du fromage, parfum, tout type d'entreprise en fait. Voilà. À la fin de cette deuxième table ronde, les entrepreneurs auront un petit moment d'échange ou un moment d'échange avec les corps diplomatiques pour pouvoir creuser tel ou tel point. Et il y aura un vin d'honneur qui sera proposé de 18h30 à 20h30
avant que les gens ne partent déjà sur, sur Paris. Voilà. C'est dans ces cadres-là que voilà, nous venons vous présenter les colloques pour savoir si, ou juste vous faire part de, du colloque, s'il y a des entreprises qui sont intéressées pour, d'une part, participer ou faire partager leur l'expérience professionnelle en Espagne ou en Amérique latine, ça serait vraiment les bienvenus. À la suite de, du colloque, il y aura forcément le, les actes officiels et tout sera publié en ligne au cahier que nous avons ici. C'est un cahier scientifique en espagnol. Parce que la science se fait aussi en langue espagnole. Voilà. Et je vous passe ici les informations. Et la, la, on vous indique la page, l'adresse mail si vous souhaitez prendre contact avec nous. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il y a des questions précises sur ces deux interventions ? Sinon, on enchaîne avec la, la quatrième. Et donc, je vais demander à Anke Loiré de nous rejoindre. Et on va mettre une chaise supplémentaire, vous en faites pas, de telle sorte que tout le monde puisse loger. Donc on parlait des affaires, du monde des affaires avec l'Espagne, mais là on va parler du monde des affaires avec l'Allemagne.
Bonjour monsieur, dame, je suis Anke Loiré, je suis donc la responsable du cabinet INET, qui est un cabinet de conseil de formation et de traduction. Je suis aussi présidente du club d'affaires franco-allemand Poitou-Charentes, qui s'inscrit dans un réseau de plus de 22 clubs entre la France et l'Allemagne. Je vais vous présenter, puisque donc, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une table ronde autour de la créativité linguistique sur notre territoire. Je vais vous parler de la création du Goethe-Zertifikat et Bulatz Deutsch Test en Poitou-Charentes, qui a été initié il y a 2 ans. Et aussi, je vais animer après donc, le, l'atelier en allemand. Donc un petit mot sur mon travail au quotidien. Donc je conseille des entreprises pour une implantation donc entre la France et l'Allemagne sur des études de marché, sur l'approche franco-allemande, sur le management interculturel. Donc le travail au quotidien entre les équipes françaises et allemandes, la formation professionnelle. Donc d'où l'initiation au Goethe-Zertifikat et Bulatz Deutsch Test. Et donc aussi la formation de relations de travail franco-allemand et des ateliers interculturels. Donc, je suis de formation aussi donc traductrice technique et donc je travaille beaucoup avec en recherche et développement dans aussi les traductions de commerce, finance, administratif et droit. Alors aujourd'hui pour tisser un petit peu donc la ici un lien avec ce qu'on vient de voir sur différents pays, donc la réalité franco-allemande, donc bien sûr ce sont des pays voisins comme l'Espagne également, la France, 450 km de frontières communes, donc il y a plus de 50 ans de l'amitié franco-allemande, et il existe de nombreuses institutions communes, et donc ces 22 clubs d'affaires franco-allemands qui ont un rôle aussi d'information. Donc ce club d'affaires franco-allemand Poitou-Charentes, il a été... Donc, il a été créé en 2011 et il a été, au fait, une volonté en Poitou-Charentes de pouvoir tisser plus de liens avec l'Allemagne. J'animais également des missions d'entrepreneurs avec la Chambre de commerce et donc on s'est rendu compte qu'à un moment donné qu'on pouvait faire bien plus que ça. Aujourd'hui, donc, c'est une association de loi de 1901. Et nous organisons donc mensuellement des actions pour nouer des contacts entre la France et l'Allemagne. L'allemand professionnel, donc ce sont 100 millions de locuteurs natifs, C'est la langue la plus parlée en Europe. À l'échelon mondial, nous avons donc 15,4 millions de personnes, majoritairement en Europe, qui apprennent l'allemand comme langue étrangère. L'importance des langues classées par rapport au British Council, donc c'est l'anglais, l'allemand, français. La répartition des langues à l'export en France, c'est donc 45% en anglais, 30% en allemand, 10% en espagnol et 5% en italien. Quand on regarde un petit peu plus près le monde de l'entreprise, nous rencontrons donc dans nos activités souvent cette frustration qu'il n'y a pas assez de personnes qui maîtrisent vraiment très bien la langue et aussi la culture. Et beaucoup de personnes se trouvent confrontées à des projets, notamment donc, des ingénieurs, de devoir travailler avec une autre culture. D'où il est important de connaître vraiment très bien la culture, non seulement utiliser une langue comme langue véhiculaire, mais également comme une apprendre la culture. L'échange franco-allemand en 2014, donc les échanges commerciaux, donc l'Allemagne est le premier client et le premier fournisseur de la France, et la France est le premier client et le troisième fournisseur de l'Allemagne après Pays-Bas et la Chine. Ce dernier chiffre est aussi révélateur un petit peu. Les Pays-Bas donc, sont très actifs et sont vraiment dans un développement économique très fort. N'oublions pas qu'il y a 1600 filiales françaises en Allemagne et 3000 filiales allemandes en France. Le profil des entreprises qui travaillent, donc il y a des grands groupes, donc il y a Decathlon qui se trouve en France. Il y a des sociétés, comme vous connaissez très bien de la région, Viessmann par exemple, qui est implantée en France. Maintenant, pour vous expliquer la création donc, du Goethe-Zertifikat et Bulat-Deutsch-Test für den Beruf, pourquoi ? Parce que ça n'existait pas en Poitou-Charentes. Il y a donc une multitude d'étudiants ou de salariés qui se font certifier leur langue à Paris, donc il y a aussi à Bordeaux, et il y a donc aussi à Toulouse, voilà, dans les Goethe-Instituts, mais ça n'existait pas en Poitou-Charentes. Et donc demain, un étudiant va se trouver sur un marché de mobilité qui, voilà, aujourd'hui, 95% des personnes qui visitent, par exemple, des salons de l'emploi franco-allemand disent qu'ils sont prêts à être mobiles. Donc il ne faut jamais oublier qu'on a besoin aussi donc, d'être, à un moment donné, diplômé, certifié pour pouvoir accepter des postes ou pouvoir postuler à des postes. Donc ce Goethe-Zertifikat, c'est donc une création des quatre partenaires, donc du Goethe-Institut Paris, du World Trade Center, la CCI de la Vienne, le cabinet INET et donc le club d'affaires franco-allemand Poitou-Charentes. Donc nous sommes quatre partenaires organisés une fois par an donc le Goethe-Zertifikat. C'est 100% de réussite depuis sa création. Donc tous les candidats qui s'inscrivent, ils ont réussi leur diplôme. Ce qu'on ne peut pas dire pour le Bulat, parce que le Bulat, c'est un test qui s'arrête au niveau du candidat. Donc, et j'ai mis un petit témoignage d'une salariée qui s'est présentée, qui avait préparé un diplôme A1. Donc on peut se dire, bah, pourquoi un salarié va commencer une langue ? Mais non, c'est parce que finalement, il y avait des projets derrière auxquels elle aurait bien participé. Et quand elle a eu son diplôme A1, son chef de service lui a proposé de participer à des réunions en allemand. Le Goethe-Zertifikat, il est valable à l'échelle internationale. Et le Bulat, lui, donc c'est un test. Il s'adresse à ceux qui cherchent un emploi et aux entreprises pour pouvoir donner la possibilité d'obtenir un diplôme. Il est aussi éligible au contrat personnel de formation, qui est intéressant pour justement tout salarié pour pouvoir obtenir un diplôme. Ici, un petit peu un comparatif. Donc le Goethe-Zertifikat, donc les deux amènent un niveau A1 jusqu'à C2. Ils sont tous les deux inscrits dans le CECR, donc c'est le cadre européen de référence pour les langues de conseil de l'Europe. Le Goethe-Zertifikat se prépare. Donc il faut logiquement faire quand même un examen blanc et se préparer en 10 heures. Le Bulat, lui, c'est un test donc, auquel on teste au fait ses compétences. Il se passe en 110 minutes sur 100 points. Les compétences ne sont pas tout à fait identiques. Le Goethe-Zertifikat, il est sur les quatre compétences, lire, écouter, écrire, parler. Et le Bulatz, donc sur la compréhension écrite et orale. Sur, bien sûr, donc un allemand professionnel. Le Bulatz existe aussi donc, dans d'autres langues et est aussi un travail donc, de Cambridge qui a demandé des experts, donc le Goethe-Institut, par exemple, pour la langue allemande. La préparation, elle s'est faite pour le Goethe-Zertifikat en groupe ou individuel. Et donc, voilà, vous avez une préparation, formation professionnelle aussi donc pour le Bulatz. Vous pouvez passer donc l'examen le 30 mars 2016. C'est la prochaine séance d'examen. Les dates limites d'inscription de préparation donc, sont jusqu'au 10 mars. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des étudiants et qui sont vraiment très, de très bon niveau qui peuvent déjà, qui sont rapidement préparés à un examen. Et la date limite d'inscription donc, est le 20 mars voilà, pour l'examen. Les préparations ont commencé et existent donc des préparations, soit en groupe ou individuelles. Donc, je vous remercie et je reviens un petit peu sur la motivation de ce que madame a disait sur la motivation finalement linguistique. Il est vrai qu'aujourd'hui, il ne manque pas seulement d'apprendre une langue, nous sommes conscients tous, mais aussi la motivation. Et les entreprises qui sont par exemple dans le club d'affaires franco-allemand, ils s'aperçoivent que la motivation elle est accrue lorsqu'il y a aussi des projets concrets. Et lorsqu'il y a aussi, par exemple, un diplôme derrière. Donc, les salariés qui débutent, par exemple, ils arrivent et ils n'ont pas tout à fait, peut-être, le projet important derrière eux. Mais lorsqu'ils sont amenés à préparer un diplôme pour eux et pour l'entreprise, ça accrue, bien sûr, la motivation et aussi, donc, c'est un enrichissement personnel également. Je vous remercie pour votre attention et je veux juste dire deux mots sur les ateliers. Donc après, nous allons faire donc un atelier sur le management interculturel et aussi sur l'allemand et moi. Et donc, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci. Donc là, on peut peut-être engager un peu plus d'échanges. Ensuite, on poursuivra avec le parlange et l'occitan un peu. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur l'ensemble des interventions ou des prises de position? Moi, j'aurais une question, mais je ne veux pas prendre la place de la salle. Mais par rapport à l'université, je pense qu'il y a aussi l'université Interage. On voit le succès de l'université Interage. Est-ce que les langues sont prises en compte dans ce cadre-là?
Alors, en ce qui concerne l'Université de Poitiers, oui, l'Université Interage prend en compte les langues. Les personnes inscrites à l'Université Interage ont accès à certains cours de langue, à certains services aussi. Pas à tous, évidemment, mais à un certain éventail de services et de cours.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, Yassir ? Présente en même temps.
Bonjour, Yassir Yeba. Moi, je suis cuisinier et anthropologue. Et je m'intéresse beaucoup à l'alimentation en tant que langage, en tant que langue et en tant que support de la langue intime qui est le goût, quoi. Et la question que je voulais poser avant que Madame Jagnaud intervienne, en fait, c'est sur les langues minoritaires et minorisées. Là, on voit bien qu'on est chez les champions olympiques de la dictature linguistique, quoi. Et qu'en est-il, en fait, on se rend compte aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de terrorisme, etc. Il faut savoir que 100% des Arabes ne sont pas musulmans et 100% des musulmans ne sont pas arabes. Or, c'est une assignation depuis une trentaine d'années que la jeunesse Made in France subit. Et que si on avait une référence à la langue d'origine, au parler d'origine, au paysage d'origine, on aurait un ancrage émotionnel beaucoup plus juste et beaucoup plus apaisé. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, bon, avec tout ce grand savoir, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas de visibilité, en sachant qu'en France, le berbère, par exemple, que je pratique et en traduction aussi, c'est la première langue minoritaire reconnue en France. Et quand on va au ministère demander un petit peu de moyens ou quand on va voir nos amis du PCP, du Parlement, etc., bon, on est bien gentil, mais il ne faut quand même pas venir courir dans la reconnaissance concrète. Voilà.
Qui veut répondre ? Allez-y, prenez le micro.
Pardon. Bon, je n'ai pas de réponse à apporter à votre question qui est tellement pertinente. Juste une réflexion de l'expérience. Je ne parle pas, même pas en tant que chercheur, là. Je veux dire, comme citoyenne, je dirais. Je pense que nous, donc, on est dans cette perception de cette instabilité, de ces systèmes dont je parlais, de ces écosystèmes très instables, très dynamiques, et donc fait de tensions. Et, enfin, moi, dans la position que j'occupe, je vois bien cette tension qui existe entre l'injonction d'une université entrepreneuriale qui réussit, qui a des résultats économiques, qui fait des gens efficaces, etc. Et ça repose là aussi sur des stéréotypes, avec une vision de l'étudiant efficace, qui est donc celui qui va savoir faire communiquer en anglais, dans un global English, tel que vous le décriviez. Mais ce que je crois, c'est qu'on est toujours en retard sur ce qui se passe. Et je crois que là, les choses sont vraiment, vraiment en train de changer. Moi, c'était une chose que je voulais aborder après toutes les réflexions. C'est-à-dire qu'on a vraiment, enfin, de l'expérience que j'ai, en tout cas à Grenoble et à Toulouse, une université plurilingue, pluriculturelle. On a des étudiants qui viennent de partout, qui sont là de partout, qui apprennent chez nous, de tous les pays d'Europe, de tous les pays du monde. Et ce qu'on voit qui bouge, et ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Moi, je vous donne simplement un exemple. J'ai une collègue de mon labo, elle est prof de FLE. Elle s'occupe des étudiants chinois. Au début, elle faisait des cours de FLE, français langue étrangère. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle s'occupe de l'accueil de ses étudiants. Donc déjà, sa fonction a changé. Parce qu'elle ne fait plus que des cours. Elle fait de l'accueil. Elle est spécialiste des questions culturelles. Elle fait des cours sur le management culturel. Et depuis cette année, on tente une expérience. Elle fait un cours. Alors, comment appeler ça ? C'est là où je dis, la société est toujours en avance, dans les faits, sur les métiers, les systèmes, les choses comme ça. Elle reçoit ses étudiants chinois et avec eux, elle prépare le cours de droit qu'ils vont avoir. Parce que ce sont des étudiants du Capitole qui sont censés faire du droit. Ils pourraient faire de l'allemand, des affaires, ça serait le même problème. Et ils n'ont pas les connaissances pour ça. Donc, vous voyez, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent beaucoup. Il faut aller les voir. Nous, tout ce qu'on pilote, par exemple, en tant que labo, au niveau du centre de langue, du CRIL de Toulouse, qui se débrouille sans nous, hein, mais on pilote un certain nombre de choses. C'est de l'ordre de ce dont vous parlez. C'est ces rencontres plurilingues. Notre société l'est plurilingue maintenant. Donc c'est plurilingue et pluriculture. Donc il y a des dispositifs, il y a des moments, enfin il y a des choses qui bougent dans ces tensions pour que soient pris en compte ces individus qui viennent, qui sont différents, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même langue, et pour leur intégration. Et ça, on n'avait pas cette problématique-là il y a 20 ans. Et juste un dernier point, de ce point de vue-là, nous disons, on enseigne non pas une langue et culture, mais une culture et langue. Donc par rapport à votre exposé, alors c'est très clair que la culture, pour moi en tout cas, vient avant la langue, même, et en tout cas avec.
Votre voisine veut réagir, je crois.
Oui, je voulais réagir par rapport au travail qui est fait. Le travail que nous faisons, c'est un travail de longue haleine, on le voit bien. Et le problème, c'est qu'on a des injonctions du ministère, comme on parlait tout à l'heure de la pratique des langues. Bon, moi, j'ai vivement réagi, et je l'ai fait savoir d'ailleurs, par rapport à cette injonction, surtout d'un coup, t'es islam ? Non. Justement, posons le problème en pluralité. Comment on vit ensemble ? Le vivre ensemble. Comment on peut construire le vivre ensemble en s'écoutant. Et je crois qu'on a dû avoir déjà une conversation, me semble-t-il. Et moi, je suis assez surprise, par exemple, sur des déclarations, et je le fais systématiquement parce que je crois que c'est fondamental. Moi, j'ai vu des étudiants d'origine d'Afrique du Nord qui découvraient, en faisant des études d'espagnol, tout un patrimoine qu'ils ignoraient. En disant, mais ça, je dis, ben oui, ce que vous avez, si vous allez à Marrakech, à Rabat, on retrouve des similitudes avec l'Alhambra, etc. Mais c'est vraiment important. Et quand j'entends parler de l'Europe chrétienne, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, parce que l'Europe, elle est chrétienne, mais elle n'est pas que chrétienne, puisque quand même, il y a eu en Espagne des musulmans pendant pratiquement 10 siècles. Donc voilà, et le problème quand vous parlez aussi de mots, je pense que l'université est aussi là pour réfléchir sur les mots. Quand on utilise le terme arabe, je leur dis, ben, Arabie, oui, mais le Maghreb, enfin, apprendre les différences, savoir que le berbère existe, comme on sait que quand on étudie, moi je suis prof d'espagnol en France, mais on sait qu'il y a en Espagne bien d'autres langues. Et je crois que c'est aussi, faut pas s'affronter, faut voir combien les uns et les autres apportent, même si on sait très bien que certaines langues ont pignon sur rue plus que d'autres. Je sais que bon, l'anglais est indispensable aujourd'hui, on le sait très bien, mais on se construit pas contre l'anglais, on se construit avec cette réalité qui est là et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble et construire les choses ensemble. Et l'université doit apprendre aux gens à penser. Moi, c'est ça qui me semble important, pas rentrer dans des cases, penser. Je pense, donc je suis, disait
Descartes.
J'aimerais rajouter pour l'interculturel, pour la culture, pour apprendre la culture. Vous savez, elle existe, cette culture, cette barrière de culture, parfois elle est beaucoup plus importante lorsqu'on commence à travailler. Lorsqu'on utilise une langue, cette culture, elle est beaucoup plus forte. Et parfois, c'est vraiment un handicap pour beaucoup de salariés que moi je rencontre ou dans d'autres entreprises qui disent, et on reprend toujours la même chose, oui, mais en France on apprend mal une langue, etc. Non, je pense que c'est pas ça, c'est peut-être aussi une méconnaissance d'une autre culture. De pouvoir rentrer dans une culture, c'est aussi un devoir citoyen. Et donc elle est parfois beaucoup plus forte que l'apprentissage, que la barrière de la langue pourrait exister.
Je voudrais juste aussi faire appel, je n'élimine pas les questions, mais il y a deux ou trois personnes qui sont dans la salle. Il y a le café linguistique, je pense que vous pourriez dire un mot sur ce que vous faites. Il y a aussi Continental Horizon qui est installé dans un lieu improbable, l'île Jourdain. Combien d'habitants ? 1800, voilà. Donc peut-être deux réactions, deux interventions très courtes, mais pour dire ce que vous faites.
Bonjour à tous. Donc, on vient en représentation du CRIJ, c'est le Centre Régional d'Information Jeunesse. Je mettrai des mots peut-être. Donc, on vient vous présenter les cafés linguistiques. Je ne sais pas si vous connaissez tous en quoi ça consiste. C'est né en fait justement à cette mondialisation, à cette interculturalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Au début, c'était dans des bars, dans des cafés que les gens se rencontraient et allaient parler des langues. Et donc, aujourd'hui, on trouve justement cette offre de café linguistique un peu partout dans le monde. Et ici à Poitiers, on a la chance d'avoir quand même une grande variété de nationalités et grâce à Sciences Po, à l'Université de Poitiers et puis à toutes les conventions qu'il y a entre les différentes universités. Donc, le CRIJ propose des cafés linguistiques depuis quelques années. Là, on les a repris depuis un mois. Et ça consiste vraiment à créer des tables. Donc, on crée une table par langue. Là, on offre anglais, espagnol, français, italien, arabe, allemand. Et on fait appel à des locuteurs natifs qui viennent justement animer la table. Donc, on invite vraiment le CRIJ, justement, dans son objectif d'accueil au public. On invite tout le monde. Donc, il y a les étudiants. Il y a des personnes retraitées qui sont venues déjà aussi. Il y a des professionnels, des personnes qui sont intéressées vraiment soit à découvrir une langue, soit à perfectionner la langue qu'ils sont déjà acquises. Donc l'idée, c'est vraiment de partager un moment de convivialité et tout en parlant une langue que vous souhaitez ou que vous aimeriez vraiment apprendre pour la première fois. Et donc on a des petits flyers, si vous voulez. On programme un café linguistique par mois et le dernier ça a été le 20 janvier, c'était le prochain c'est le 10 février, le dernier c'était le 20 janvier. On a eu un grand succès, on a eu une cinquantaine de personnes, donc des gens qui sont venus de tout le monde entier en fait. C'est le 10 février au CRIJ. Je vais vous faire passer les flyers. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus vraiment, ou même si vous voulez animer une table, vous pouvez le faire aussi. Donc vous prenez contact avec nous. Si vous vous sentez capable aussi de pouvoir animer une table, vous pouvez le faire. La table est française, elle marche très très bien, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont à Poitiers. Donc c'est la table où il y a le plus de monde. Je pense qu'on va ouvrir une douzième parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus et vraiment c'est une bonne manière de pratiquer la langue, de parler de tout,
du pays, de la culture, de différents aspects qui touchent la jeunesse et qui touchent les faits d'actualité aujourd'hui dans le monde entier. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci pour cette intervention. En passant d'ailleurs, justement, peut-être, est-ce que vous connaissiez le Café Linguistique ? Vous vous présentez 2 minutes.
En effet, non, c'est la première fois que j'attends. Pour me présenter, je suis étudiant en Master 2 en philosophie. Je suis en France depuis l'année dernière. Je suis russe d'origine. Je me suis intéressé dans la langue étrangère. Monsieur... Oh oui, j'ai juste fait une annonce de russe, hein, que je propose le soutien de la langue russe. Vous m'avez invité, mais merci beaucoup.
Alors, Continental Horizon, deux mots.
Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle Voisin-Seagrave. Je suis française, mais j'ai vécu la plupart de ma vie en Angleterre. Et je suis traductrice interprète juridique de métier. Et j'ai créé en 1996 Continental Horizon. Alors je l'ai créé en Angleterre puisque j'étais là-bas. Et on s'est réimplanté, j'ai recréé la même société en France en 2003. On est un centre de formation en langue étrangère. Donc on fait du français, du FLE. Enfin, je suis spécialisée aussi dans le FLE, donc français, langue étrangère. L'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. On fait des services d'assistance administrative principalement pour les Britanniques qui sont dans la région. Et on a aussi, je travaille avec des traducteurs et autres interprètes. Alors on est installé dans un lieu tout à fait inhabituel, hein, parce qu'on s'attendrait plutôt à être en grande ville, notamment à Poitiers par exemple. Et en fait, on est à l'île de Jourdain, donc Sud-Vienne, on va dire perdu, mais il n'y a nulle part, non, c'est pas vrai, mais presque. En fait, c'est un choix pour être au plus proche de mes compatriotes britanniques et pour rendre un service qu'ils ont vraiment besoin, notamment dans le FLE. Beaucoup de personnes britanniques viennent en France, et notamment dans le Sud-Vienne, pour résider en France de façon permanente, mais ils ont besoin d'apprendre le français et si j'étais pas là, il y avait une niche en fait pour mon activité. D'autre part, je suis la présidente d'une association qui fête ses 10 ans ce mois-ci. Le monsieur devant est aussi un des membres en fait. On savait pas qu'on allait être là ensemble. Qui s'appelle Association de Lille. C'est un jeu de mots avec Lille Jourdain, mais aussi pour intégration sociale, langue et échange. On a 122 membres à ce jour. On fait des cours aussi de français langue étrangère en petits groupes, avec des prix réduits pour les personnes qui n'ont pas assez les moyens. On fait des ateliers de conversation où justement là on fait beaucoup de jeux de rôle. Hein, le jeu de rôle c'est ce qu'on préfère, de manière à mieux apprendre et se mettre en situation. Hein, se mettre en situation. On a un petit café qui est ouvert tous les vendredis matins avec une bibliothèque avec des livres français, des livres anglais. On a un club de jardiniers, on fait beaucoup d'autres activités, on a des déjeuners, etc., et beaucoup d'activités. Donc très, très... On est très dynamique et ça marche très bien, et il y a vraiment le besoin. Voilà, merci.
Merci pour ce témoignage, parce que j'avoue que quand j'avais lancé l'idée de la table ronde, je me disais avec les territoires, ça ne va pas être facile de trouver des choses. Mais il y a l'île Jourdain, il y a plein de... Je sais qu'à Thouars, l'autre jour, j'ai découvert quelqu'un qui faisait des cours d'allemand. Enfin voilà. En fait, dans les territoires, il se passe plus de choses qu'on ne le pense. Mais ça, c'est vrai en général pour la créativité. C'est-à-dire quand on prend la peine de regarder, on s'aperçoit que... Et je sais pas s'il y a quelqu'un de l'APP de Montmorillon. Non, parce que l'APP de Montmorillon se lance dans le chinois aussi, puisque avec l'Institut Robuchon... qui arrive, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui, vous présentez en même temps.
Je m'appelle Tian Hong, je suis d'origine chinoise. Et puis, ça fait plus de 20 ans que je suis en France, et surtout presque 20 ans que je suis au Poitiers. Et puis, j'ai créé une association franco-chinoise en 1999. Notre siège social se trouve au toit du monde. Donc, notre association, ça s'appelle Couleur de Chine. Et puis, justement, notre président, monsieur Stéphane Chassard, il vient juste d'arriver après son travail. Voilà. Et puis, on est là, c'est presque une vingtaine d'années, hein, créer cette association. Et puis, dans l'objectif de promouvoir la culture chinoise, notamment à travers la langue, les arts culturels, etc. C'est-à-dire la langue chinoise, l'atelier de calligraphie, l'atelier de cuisine, etc. Et même le jeu chinois, le mahjong, etc. Et puis, voilà, c'est-à-dire, si moi, ici, j'ai des tracts pour notre association, si ça vous intéresse, en plus, aujourd'hui, la langue chinoise, même depuis toujours, je pense, c'est la langue maternelle la plus parlée du monde, au niveau de la langue maternelle, parce qu'on est le plus nombreux du monde, toujours. La Chine était et est toujours le pays le plus peuplé du monde. Donc, au niveau de la langue maternelle, c'est la langue la plus parler du monde. Et donc, c'est pour ça que maintenant, plus avec le développement économique, politique dans tous azimuts hein, de la Chine, dans le monde entier, et puis depuis une vingtaine, trentaine d'années, depuis la réforme économique à l'extérieur, dans les années, début des années 80, et puis c'est pour ça que et la langue chinoise se développe énormément. Je pense que maintenant, c'est presque la troisième langue enseignée en France, juste après l'anglais, l'espagnol, et puis peut-être l'allemand, oui. Mais depuis ces dernières années, le chinois, c'est-à-dire l'enseignement de la langue chinoise, s'est beaucoup développé en France. Et puis, vois, maintenant, il était en train d'attraper l'allemand. Voilà, je pense. Bon, merci beaucoup.
Merci de ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Drina, vous voulez dire un mot? Vous êtes de Bolivie, vous?
Bon, donc, je suis bolivienne de nationalité. Et moi, je vais témoigner plutôt une caractéristique, ce que vous avez parlé, Anke et tous les autres, par rapport au culturel. Je viens d'une famille plutôt commerciale. Et donc, je suis un peu liée entre le commerce et la langue. Et donc, par biais l'entreprise de mon père, je représente ici une entreprise qui s'appelle Motorball. Donc, cette entreprise, normalement, il importe des voitures ou tout ce qui est des engins pour la construction ou bien des machines. En ce moment, on commence avec tout ce qui est l'agroalimentaire. Et ce qu'on trouve, c'est ce que vous avez parlé tout d'abord sur la culture, la méconnaissance de l'autre, ce qui gêne plutôt les rapports avec l'entreprise. Ça veut dire, nous, on est Bolivien, on a une manière d'être, une manière de travailler, que malheureusement, les Français ne vont pas comprendre. Ce n'est pas un reproche, c'est que le système est comme ça. Et c'est assez difficile qu'une entreprise puisse comprendre que les règles sont différentes et aussi la manière de travailler. Dans ma culture, normalement, on peut, par exemple, appeler après 8 heures. Ça ne va pas poser un problème quand c'est un travail de business. Tandis qu'ici, il y a des règles à suivre. Donc, du coup, c'est assez difficile de nous ouvrir, peut-être. Et ce qui pose, quand je fais une analyse, un problème de ce qu'on appelle compétitivité. Quand on dit compétitivité, on attend que, par exemple, qu'un Français soit plus ouvert au monde économique. Or, on a des règles fixées déjà. Par exemple, on ne travaille pas les dimanches. Les samedis, à 7 heures, tout est fermé. Donc, ce qui gêne à l'autre. Et on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Tandis que nous, on travaille. Ça, c'est un rapport culturel que j'ai parce que je vis ici, ça fait au moins
12 ans. Et je dis, mais comment est-ce qu'il y aura une compétitivité si on ne sait pas comment l'autre travaille, si on ne sait pas comment s'ouvre? Donc, tout le monde dit, bah, on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'emplois, mais c'est parce que peut-être on n'essaye pas de nous ouvrir et de dire, bon, voilà, je vais travailler, par exemple, avec les Chinois, ils sont beaucoup plus ouverts, je vais emporter une cargaison, ils vont s'habituer au... chercher la manière que l'autre culture va vouloir faire quelque chose, c'est notamment sur l'importation. Des personnes qui travaillent aux Pays-Bas, ça va être pareil. On demande envoyer des conteneurs, ils vont les faire assez facilement, tandis qu'en France, on a une barrière. Non, les lois nous ne permettent pas de faire ça. Donc c'est assez difficile de travailler. Et c'est intéressant ce que Anke disait tout à l'heure sur le management culturel. Donc, on ne sait pas. Et là, dans mes cours, parce que je suis enseignante d'espagnol avec M. Montesinos et je travaille avec Mme Chabas. Donc, à l'IAE, je travaille à l'IAE, oui. Je travaille plutôt sur le commerce et j'essaie d'ouvrir mes étudiants plutôt à cet aperçu. Je dois connaître l'autre pour pouvoir vendre mes produits, pour pouvoir creuser un peu sa culture et dire comment est-ce que je peux l'attirer envers moi pour qu'il puisse m'acheter un produit. Quand il n'y en a pas ça, c'est sûr, on va couper tout de suite les rapports économiques. Donc, on ne sait pas la culture, c'est vite fait un contrat perdu. Et ça joue sur des millions d'euros. Et bon, voilà, l'exemple clair, c'était par exemple, quand le président de l'Iran est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Français pour ne pas froisser le président? Donc, mais les étudiants, ils ne se rendent pas compte de qu'est-ce qu'on fait nous? Comment on s'ouvre? Et donc, c'est la question et c'est un travail à faire tous les jours auprès des autres personnes, dans mon cas, c'est mes étudiants ou des personnes que je connais, voir. Et que c'est, comme vous dites, un travail de longue haleine à travailler petit à petit et changer un peu et aller envers l'autre.
Donc, c'est tout. Merci du témoignage. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant au parlange et à l'occitan et puis on essaie de tenir assez. Mais c'est bon, de telle sorte qu'ensuite on embraye sur les ateliers à 17h. Il y aura le basque avec Ravière, le chinois avec Hong. Il y a également l'occitan et le parlange. Et puis il y a également l'allemand avec Anke. Et puis j'en ai peut-être oublié un, je crois. Le malgache avec Yvonne, voilà. Pardon. Donc je vous laisse la parole, Madame Jagno et... J'en profite juste pour vous dire que la prochaine table ronde portera justement par rapport à ces questions du monde des affaires, d'interculturel, sur l'entrepreneuriat jeunesse. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Rabhi, je crois, hein, sur l'injonction d'entreprendre. Je ne sais pas où vous êtes. Pardon, excusez-moi. Ouais, bon, c'est pas très grave, mais simplement vous dire que, bah, justement, pour surprendre, parce que l'entrepreneuriat, on peut dire, à la limite, c'est les geeks, c'est tous les mêmes. Et justement, on fera venir quelqu'un. Il y en a, évidemment, il y aura les geeks. Mais on fera venir un jeune qui veut créer un institut de pensée médiévale. Donc, dans l'entrepreneuriat, ça va pas être de la tarte. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et il nous fera une lectio, c'est-à-dire comme au Moyen-Âge, pour préparer une dispute médiévale. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de debating. Et ben justement, peut-être qu'il y avait, avant le debating, il y avait déjà des disputes médiévales. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée, pour vous dire que voilà, les chocs de culture et les chocs de rencontres, ça nous intéresse. Donc je vous laisse la parole, je vous présente et vous nous dites ce que vous avez à nous dire.
Bonjour, tortoute. Voilà, un petit mot, très rapidement, de présentation. Merci tout plein
Jackie Doniol d'avoir accueilli notre présentation, enfin d'ajouter cette présentation de langue régionale, donc Poitevin-Saintongeais et Occitan, des acteurs autour de ces langues, il y en a tout plein. On va présenter donc Parlons Juivant, l'association qui a fait la demande et qui est adhérente de l'Union pour la culture populaire en Poitou, Charente et Vendée, UPCP Métive. Et ces deux, enfin, ces pôles-là, disons, pour Parlons Juivant, c'est une des 44 associations de l'Union pour la culture populaire. Et elle est active dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres et un petit peu, en Charente et Charente-Maritime, autour du Poitevin-Saintongeais. Il y aura ensuite Annie qui parlera pour l'Institut d'études occitanes de la Vienne. Et les deux langues se retrouvent dans le club de langues régionales, qui n'est pas un club, hein, c'est juste une association, là, de 1901, de la faculté des lettres, où on trouve donc réunis les deux langues. Alors, en ce qui concerne le Poitevin-Saintongeais, les activités qu'on a autour de la langue, à travers des ateliers, diverses manifestations dont je ne ferai pas la liste, des créations, etc., réunissent, on va dire, des gens intéressés par la langue. J'ai été sensible à beaucoup de choses qui se sont dites tout à l'heure, et entre autres, qu'on n'apprend jamais la langue pour la langue. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils ont toujours une idée derrière la tête. Elle n'est pas toujours exprimée, mais bon, il y en a une. Et souvent, ils réalisent quelque chose après. Donc, dans la salle, par exemple, pour l'Occitan, il y a plusieurs conteurs, conteuses, chanteurs, musiciens qui sont là et qui seront avec nous après aux ateliers. Et même chose pour le Poitevin-Saintongeais. Donc, on va voir dans une minute ou deux un exemple d'un film d'animation en Poitevin-Saintongeais qui a été créé par Lucie Mousset, qui n'était pas adhérente de l'association, mais autour, on va dire, qui a fait appel à nous. Et ce film a justement été film d'animation à partir d'un conte en Poitevin-Saintongeais. Ce film a justement été réalisé par l'UPCP Métif, édité, pardon, avec le lieu multiple et la famille digitale. Donc le lieu multiple, c'est l'espace Mendès France. Hein. Alors, ce film s'intitule Demi-jour, moitié de poulet, moitié de coq. Et il a d'abord été recueilli en enquête, c'est-à-dire qu'on a là tout un fil dans la création, enfin tout un parcours qui commence par la culture populaire traditionnelle, quelqu'un qui raconte une histoire demi-jour, comme André qui est dans la salle a entendu raconter en occitan ce conte par sa grand-mère. Après, il y a l'enquête, hein, il y a l'enquête ethnologique, et puis la trace de ça dans des éditions de recueils, de livres. Et puis, à partir de là, un album que notre association avait fait avec deux contes populaires et quelqu'un qui a besoin de quelque chose en langue régionale à sous-titrer, qui se dit, tiens, ben, il faut que je fasse un film parce qu'il n'y en a pas. Donc, il y a comme ça toute une série de besoins, d'envies, enfin, qui aboutissent au film d'animation, donc Demi-jour, qu'on va voir maintenant. On voit quelques minutes, hein, enfin 8 minutes je crois du film, et on est sensible, enfin nous en tout cas été sensible particulièrement à la façon dont Lucie Mousset, la réalisatrice, s'appropriait un objet de culture traditionnelle pour en faire tout autre chose, enfin un conte certes, elle garde les étapes du conte, enfin elle en fait une espèce de mixage culturel, il y a dedans à la fois le parlant, je vais vous le passer avec le sous-titrage français, mais on a aussi la version avec le sous-titrage anglais ou sans sous-titrage qui passe très bien. Il n'y a pas forcément besoin du sous-titrage. Et donc, l'histoire de cette moitié de poulet, après, s'enrichit de quantités de traces culturelles dont vous reconnaîtrez quelques-unes au passage. Et elle finit, pour le savoir, il faut voir le film en entier. Et vous ne vous direz pas. Alors... Ah si, elle finit par une chanson en anglais, mais bon, après, vous ne saurez pas laquelle. Voilà.
Il Il en va et vous raconta une histoire. Deux femmes sont revenues de Marie.
Il s'est bien content. Il s'est mis un bien content. Te fais ton lait et tout. T'es tout vierge. Et puis t'es pas bien grosse avec. Faut manger. C'est peut-être justement plein et nu. Ah, c'est bon. Viens nous manger. On fera demain. L'autre mettit la scène à quoi?
Assez grand, le sang n'a mis sur les routes qu'un cantona. Le second du fixe. Un roule d'été l'a resté. Le descendit dans un puits pour le boire.
Bourse. Bonjour, Migo.
Bonjour.
avait fait d'opétain sur la route.
Ouais, ouais, il va donner d'ailleurs.
Ne bougez pas. On sera pris avec saut de chou sur votre pays. J'ai de la sang?
Non.
Alors, il vous prend votre
cou. Et non, voilà.
Tiens.
Mais, calme, défendez-vous. Hein? Ma peau, c'est des sangs de chou. Attenez, mes gaillards. Attenez un peu. On est bien pris. Il vous l'a pas rêvé.
Le bruit qui s'agarde fouille un tout le temps.
Un petit de plus de radin.
Mon bonheur. Où es-tu parti, le Michaud?
Il court après le bruit. Hein? Il bouge pas de là.
Monsieur. Alors quoi, alors, attends.
Il enlève l'image. Il fait exprès de couper parce qu'il n'y a plus guère de temps pour causer. Il veut aller jusqu'au GPS. Enfin, après, tout le long du chemin de Miho, il va y avoir une série d'objets de la vie soi-disant moderne. Enfin, GPS, autre iPad, diverses traces comme ça. Et surtout des idées, enfin il va y avoir quelque chose qui va être dit, c'est-à-dire que le renard va rentrer, comme dans le conte, dans le corps de Mijo, mais au bout du compte, il y aura voilà, quelque chose qui va se passer, qui ne vous dit pas. Enfin, on respecte, disons, en gros, la trame du conte, on en respecte aussi souvent de fait l'idée, parce que le petit Mijo qui va être le héros, qui va remporter, mais on dit des choses pour maintenant. Alors ce genre de projet-là, tout petit, plus gros, dépend, hein, fait de différentes façons, va être quelque chose qu'on va trouver plus ou moins chez ceux-là qui s'intéressent au parlange. On appelle parlange le Poitevin Saint-Onger, la même affaire. Et on va réaliser une série, enfin il y a eu des albums, il y a eu des outils pédagogiques divers, il y a eu du théâtre, pour lesquels souvent on fait appel à nos ateliers, où on est nous-mêmes plus ou moins impliqués dans la réalisation, où on utilise d'autres. Il y a des quantités de réseaux donc, qui vont se créer ainsi autour des langues régionales. Le but étant un peu, pour nous, à la fois de répondre, bien sûr, aux demandes qui nous sont faites, mais de modifier surtout l'image de la langue régionale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement répondre à des besoins ponctuels qui expliquent que les gens s'intéressent à la langue régionale, mais c'est à travers ça travailler à l'amélioration de cette image ou à sa modification. Là, on parle de déghettoisation, sortir des ghettos culturels dans lesquels on les enferme, parce que j'ai aussi été très sensible aux liens quand même habituels qu'on fait entre langue et culture, mais à condition de préciser de culture vivante, parce que dans certains cas, pour les langues régionales en particulier, lier la langue à la culture, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que ça veut dire que les gens vont vous les enfermer dans des cultures traditionnelles figées. Et en gros, on va retrouver à la une de Libération, au moment d'un débat passé autour des langues, eh ben, à la une, en gros, quelqu'un avec le béret, les sabots et la langue régionale. Hein, donc, évidemment, après, il faut travailler sur les images culturelles en même temps, quoi, sinon on tourne en rond. Donc, travailler sur l'image de la langue pour qu'elle puisse entrer ailleurs que dans les cercles habituels. Parce que dans les cercles culturels
dans les cercles de recherche à l'université, etc., il y a des endroits où la langue rentre facilement, non, mais elle rentre quand même, on va dire. La langue régionale, elle est par contre, pour le Poitevin-Saintongeais, mais c'est aussi vrai pour l'Occitan, beaucoup plus difficilement admise dans le monde de l'entreprise, dans la vie économique, dans l'espace public, dans tout ce qui est, qui permettrait une visibilité. Le Poitevin-Saintongeais a eu une place à la télévision et ça a été un énorme succès pendant un an et demi, en 85-86, à la suite de quoi il n'y a pas eu moyen de continuer alors que ça marchait très bien. C'est-à-dire que dès lors qu'on sort un peu par la signalétique bilingue en occitan, etc., qu'on sort un peu des rails habituels, ben on n'est pas aisé, c'est pas facile. Hein. Donc on travaille à cette espèce d'élargissement de l'image des langues à travers des réalisations, des démarches, des contacts, enfin, quantité de... Donc, on est très intéressé par tout ce qui est café linguistique ou on ne sait pas quoi. Moi, à La Roche-sur-Yon, ils font un bistrot par l'ange ou des choses comme ça où on peut rencontrer des gens. Voilà. Donc, je laisse la parole à Annie, puisqu'il y a aussi à Poitiers un atelier donc, de par l'ange et un atelier d'occitan en parallèle, quantité d'action.
Il me faut le micro, voilà. Je vais juste compléter ce que tu viens de dire. Je voudrais préciser tout de même que je suis bien présidente de l'Institut d'études occitanes, on dit IEO, mais de la Vienne seulement, parce que, bien sûr, l'Occitanie représente la moitié de la France, quoi. Alors, le président national est à Toulouse, et dans chaque département d'Occitanie, à peu près, il y a, bien sûr... l'IEO qui est représenté, et donc dans la Vienne, même si on n'est pas nombreux, nous ne sommes que 20, mais nous existons et nous faisons un tas de choses. Et avec la nouvelle région qui va s'élargir, on rattrape le Limousin, et avec le Limousin, ben, la langue d'oc qui est là-bas évidemment encore plus représentée, ça va nous booster un peu, je pense. Voilà. Alors, effectivement, nous avons l'atelier tous les lundis à la fac, c'est le club de langue régionale, et on complète ces ateliers par des conférences aussi tous les mois sur des thèmes que les participants aux ateliers ont choisis souvent, et on trouve des gens compétents qui viennent parler et compléter ce que nous faisons. Voilà. Notre mission, c'est bien sûr la promotion de la langue, mais aussi de la culture de occitane. Qu'est-ce que je peux dire? L'Occitan est représenté dans la région, mais bien sûr, juste, c'est la partie est de la Charente, et puis quelques départements, communes, du sud de la Vienne. Pour autant, c'est assez vivant.
Et puis il faut ajouter, excuse-moi, mais qu'il y a énormément d'Occitans dans les administrations, enfin un peu partout dans la région, quoi. Donc l'Occitan est beaucoup plus présent qu'on ne croit historiquement et à travers l'un les locuteurs.
Oui, oui, c'est vrai. Alors que faisons-nous dans notre atelier? Nous discutons, nous lisons, mais aussi nous faisons des choses. Il y a plusieurs membres de l'atelier. Donc effectivement, Liliane a évoqué tout à l'heure une conteuse qui a publié un livre avec un enregistrement, donc des contes que sa grand-mère lui avait racontés. Il y a aussi Stéphane qui va sortir un disque, je pense bien, de ces jours, avec des poésies, enfin des textes, des chansons en occitan sur une musique rock, hein, c'est ça ? Rock. Et on a aussi à l'atelier une dame qui a fait... Un disque aussi, des comptines, mais c'est pas forcément destination des enfants, parce que ça, c'est très intéressant aussi pour les parents, quoi, qui peuvent expliquer ça à leurs enfants. Voilà.
Et on peut ajouter que très souvent, les gens qui participent aux ateliers ont une image de la langue liée à l'enfance, au cercle familial, à leurs souvenirs, et qui découvrent un univers qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'on n'a pas le temps de présenter là, parce qu'il y a énormément de créativité en langue régionale. On a apporté des quantités de choses pour les ateliers, et des choses qui continuent, enfin tout le temps, quoi. C'est, C'est-à-dire qu'on est, on est débordé un peu, d'une certaine façon, c'est sur Internet, c'est dans les lieux culturels et ailleurs, mais il y a vraiment une abondance de matière autour des langues régionales, qui, une abondance qui n'est pas très visible, qui ne se voit pas sur les grands médias, et qui se voit sur le terrain, quoi, mais qui existe quand même, mais qui a des ramifications multiples.
Si vous allez dans la région de Confolens ou dans le sud de la Charente, vous verrez qu'il y a la double signalétique, le nom en français, bien sûr, et puis aussi le nom en occitan.
Pour finir, on attend la sortie du calendrier 2016 que la région Poitou-Charentes fait tous les ans. Donc le 2016, elle a pris un peu de retard. Du coup, maintenant, elle est dans la grande région et le calendrier, de ce fait, n'est pas sorti. Donc si vous voulez celui de l'année dernière, on en a apporté quelques-uns parce qu'à chaque fois, il y a un thème. Et là, c'était sur la toponymie, donc avec quantité de photos sur les noms de lieux en langue régionale.
Et cette année, c'est sur les légendes de la région, les légendes.
Il va arriver.
Il va arriver. Oh. il serait temps. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui. On peut parler aussi du festival Langue en Fête, quand même, un peu. Parce que ça permet, effectivement, ce festival Langue en Fête, qui a lieu tous les 3 ou 4 ans, à peu près, permet de sensibiliser, de mobiliser un peu les élus. Ça permet d'inviter des gens des autres régions.
Il y a des tables rondes, des spectacles, des tables rondes, des expositions. Il y avait un, donc, Langue en Fête. Langosenfesto, parlons en fait cette année au l'été à Poitiers, donc au mois de juin, en 2015. Et le prochain, on ne sait pas. Voilà. Merci.
Merci voilà. À vous. Merci à vous. Et puis merci pour le timing, parce que vraiment, vous êtes... et je dis pas, en parlant, j'en dis comment on traduit timing. Voilà.
Bon, ils vont faire vite. Après,
ouais.
Comment vous le dire.
Bien, alors, une question.
Vous avez la question.
On se contente pas de répondre aux besoins, ce qu'on fait d'abord, et puis après on essaie d'élargir les choses et puis de changer l'image. Donc la demande, c'est quoi la demande en langue régionale? Est-ce que vous pourriez m'expliquer?
On a très souvent des demandes de traduction, que ce soit pour une fête, on veut une chanson, des demandes de ce type-là. C'est-à-dire que les gens cherchent de la langue régionale pour offrir à quelqu'un ou pour causer avec quelqu'un, des demandes de traduction dans les deux sens, hein, français, poitevin ou poitevin français. Des demandes de qu'est-ce qui existe, on voudrait telle chose, telle chose. Alors, souvent, ça passe par nos sites internet, on nous demande ou des formations. Enfin, on veut une soirée conte, on veut... Voilà, ça vous donne une idée, mais c'est beaucoup plus varié que ça, en fait. Puis il y a des demandes informelles, les gens en demandent, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Donc on essaie de voir avec eux.
Merci. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se répartisse en atelier. Donc le basque, c'est avec Ravière, si tu veux te mettre debout, et puis tu vas prendre la direction du coin santé, voilà. Donc ceux qui veulent faire du basque avec Ravière, bah, vous suivez le mouvement. Voilà. Ensuite, on va procéder par étapes. Donc, le basque d'abord. Ensuite, le malgache avec Yvonne, ici présente. Donc, vous attendez une minute, le temps que... Voilà. Et le malgache, c'est juste un peu plus loin, à gauche, dans le hall d'exposition. Donc, vous savez où c'est. Donc, voilà pour le malgache. Ensuite, les langues régionales, le parlange et l'occitan, c'est en haut. Hein, Annie et Liliane, vous savez où c'est. Donc il faut monter. Et c'est dans la salle de réunion. Voilà. Oui, oui, oui. Céline vous accompagne d'ailleurs. Et ici reste donc le chinois d'un côté et l'allemand de ce côté-là. Et on sépare. Et alors, on se donne comme principe que c'est trois quarts d'heure. Ceux qui veulent changer ensuite changent d'atelier. Trois quarts d'heure à nouveau. Et on termine à 18h30 parce que la maison ferme. Donc vraiment, voilà, il faut terminer. Et juste une information pour la prochaine table ronde. Donc c'est le 18 mars et sur seul entrepreneuriat, mais vous le saurez. Voilà.